PMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Salut à tous, bienvenue pour le 17e épisode de la saison 4 de Vue du Banc, un épisode qui sera consacré à deux matchs, le premier le plus important en tant que Français, la victoire de la France face à l'Argentine 4-3, et le second, l'Uruguay qui a battu le Portugal 2-1. Donc les deux formations qui s'affronteront dans quelques jours, la semaine prochaine, pour en parler. Comme d'habitude, les deux complices de toujours, Florent Tonuti de Chronique Tactique Site, qui a repris du service. Salut Florent.
Salut.
Et Raphaël Cosmidis, l'homme qui fait les plus belles palettes de France, peut-être d'Europe, dans l'équipe du soir, en outre, en plus de ses activités de coaching. Mes hommages, Raphaël.
Salut Christophe.
Alors, on va commencer pour une fois avec toi, Raphaël, souvent, mais Florent prioritaire. De quoi est-ce que tu veux parler sur ce match? Alors, je pense qu'on reviendra au cas individuel un petit peu plus tard. Déjà, peut-être sur le rapport de force entre les deux équipes, le fait que ouais. La France s'attende et que l'Argentine ait la balle, c'est un peu ce à quoi on s'attendait vu la compétition des deux équipes.
Et c'était logique et je pense que ça a plutôt bien marché. Donc pour lancer un peu le thème de ce match, je pense que le truc qui m'a frappé, c'est alors pas forcément ce qui s'est passé sur le terrain pour débuter, mais le débat qu'il y a eu notamment à la mi-temps, quand il y a eu 1-1, puis même juste au retour de la pause avec le 2-1, où les gens, enfin pas mal de gens, les twittos, les téléspectateurs ont reproché un peu à l'équipe de France de jouer bas et d'attendre, alors que c'est de jouer bas et d'attendre qui avait permis de faire 30 excellentes premières minutes. En fait, je trouve que il y a un problème de timing sur les reproches qu'on fait à l'équipe de France, où encore en phase de poule, nous, on avait beaucoup de remarques sur le type de jeu de l'équipe de France et sur pourquoi ça marchait pas. Mais c'était logique par rapport au plan que proposaient les adversaires et par rapport à ce que tu devais faire pour créer des décalages. Là, je trouve que malgré le score qui montre pas l'écart entre les deux équipes, c'est un vrai bon match de l'équipe de France sur beaucoup de phases de jeu. Et si tu regardes comment le match a été abordé par le staff français et comment il a été pris par les joueurs et comment ils ont démarré, je pense que c'est un vrai bon match des Bleus, malgré des errements et des trois buts qui sortent un peu de nulle part parfois. Et voilà, je voulais insister là-dessus parce qu'on est souvent dur sur l'équipe de France et aussi parce qu'on en attend beaucoup, parce que tu sens tout le potentiel qu'il y a. Et pour le coup, moi j'ai placé plutôt un bon moment, que ce soit tactiquement sur juste du travail et de la discipline pure, mais aussi dans des séquences de jeu qu'on n'avait plus l'habitude de voir sous le maillot de l'équipe de France.
Florent, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que début de match de la France est bon au-delà des faiblesses de l'Argentine? Parce que par exemple, sur le pénalty obtenu par Mbappé, tu ne peux pas parler de la vitesse d'Mbappé sans parler de la lenteur de la défense. Est-ce que la stratégie était bonne au-delà du fait qu'elle se mariait parfaitement aux faiblesses argentines?
Voilà, c'est surtout ça, c'est que... On a eu un match où on a pu jouer sur nos qualités. Si Mbappé peut faire parler sa vitesse, c'est parce qu'il avait de l'espace. Et c'est parce qu'il avait de l'espace dans le dos de la défense argentine. Et si tu positionnais pas ton bloc bas, bas comme il était pas spécialement très bas non plus, en plus. Mais si tu jouais pas de cette manière-là, t'aurais moins profité de ça et t'aurais eu moins d'occasion, pardon, de profiter de la faiblesse de l'Argentine. Mais par rapport à ce que disait Raphaël, il y a juste... Un truc en fait qui change par rapport aux analyses où on était un peu à contre-pied là et on se retrouve un peu à contre-pied pendant la phase de poule et à nouveau ici, c'est juste le résultat. C'est juste parce qu'il y a un partout à la mi-temps que c'est cette analyse là qui est produite sur les plateaux, avec notamment l'accent qui est mis sur ce but de Di Maria, cette frappe de 30 mètres, où là, en effet, sur une phase à mon avis de touche où t'as quelques joueurs qui sont peut-être un peu déconcentrés, notamment les joueurs qui étaient proches de la ligne de touche à ce moment-là, et tout le monde utilise cette action-là, mais qui est plus ponctuelle qu'autre chose dans le match, pour dire que, regardez, ils ont vraiment reculé, et du coup, ça a permis aux Argentins de revenir. Le fait est, malgré tout, que quand on arrive à un partout à la mi-temps, on se dit, quand même, malgré le score nul, qu'au-delà du résultat, l'équipe de France est largement supérieure à l'Argentine à ce moment-là du match.
Raphaël, il y a des gens qui se posent la question de savoir s'il n'y a pas un moment où l'équipe de France, elle n'est pas tombée limite presque dans la caricature et qu'elle n'aurait pas pu faire autre chose en allant quand même par presser par séquence ou autre. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, au-delà de jouer de la sorte, tu ne pouvais pas quand même de temps en temps essayer d'avoir un peu plus la balle? Parce que, forcément, on lit le résultat. Là, il y a 1-0, il aurait pu y avoir 2 ou 3-0 avant l'égalisation. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir 2 ou 3-0 en jouant quand même
ouais, en changeant
sur la même
façon,
philosophie,
ouais.
mais en changeant quand même un petit peu certaines choses.
Bah, il y a eu ce débat sur Twitter, j'ai eu ce débat avec des potes aussi qui disaient que tu aurais pu autant emmerder l'Argentine en allant presser leurs centraux, qui, et même Mascherano, qui sont aussi faibles, le pied en tout cas à l'âge qu'ils ont et dans cette équipe-là, dans ce contexte-là, parce qu'ils sont c'est pas favorisé par l'expression collective de l'équipe d'Argentine. Après, je trouve que là, sur le coup, Deschamps est cohérent avec lui-même, mais tu peux pas lui reprocher de jouer comme ça alors qu'il prépare ça depuis le début. Ou alors, faut lui reprocher avant et il fallait s'en rendre compte avant. Et tu vois. Enfin, je comprends quand c'est des gens qui le critiquent depuis, qui reprochent ce style de jeu depuis 2, 3 ans, 4 ans. Quand c'est des gens qui se rendent compte en 8e de finale que voilà, Deschamps, c'est ça, non, c'est comme ça depuis le début, les gars. Et si vous le défendiez il y a 3 semaines, faut le défendre maintenant parce que c'est encore plus logique de le défendre maintenant. Donc, t'aurais pas en effet embêté l'Argentine différemment, mais sur le fait de vouloir le ballon et d'aller prendre plus de risques, ça a été fait après le 2-1. Où on a vu une équipe de France forcée de prendre le ballon parce qu'il fallait égaliser et tu te retrouvais un peu par hasard comme ça ou par malheur derrière au score. Et on a vu une équipe de France beaucoup plus enthousiasmante dans la façon de prendre le ballon, de prendre des risques, balle au pied et dans les passes que tu tentes, même si on l'avait déjà vu en première. Et ça a été un des mieux aussi. Je pense que c'est noyé par le nombre de phases de contre-attaque et de transition offensive, et notamment la performance de Mbappé. Mais il y a eu du mieux aussi sur d'autres choses, notamment les relances de Varane qui casse 2-3 fois la ligne de pression en première période et notamment du pied gauche. Il y a eu du mieux dans les déplacements de Griezmann, notamment sur le 4e but où il arrive à se retrouver en appui un peu comme il aime le faire à l'Atlético et Matuidi en soutien. Donc c'est un match qui a été riche dans pas mal de domaines pour l'équipe de France. C'est masqué par des performances individuelles comme celle de Mbappé, par le contexte du match où en effet t'as explosé Mascherano et la défense centrale argentine sur des contre-attaques, mais c'est pas les seules satisfactions, et c'est pour ça que tu sens quand même qu'il y a un vrai potentiel dans cette équipe, et que Deschamps évidemment n'a pas su et ne saura pas en exploiter tout le potentiel et toutes les facettes, mais sur ce match-là, je pense que c'est quand même assez complet ce qu'a fait l'équipe de France, et c'est le score qui ment un peu sur la performance collective globale.
Florent, si on se concentre sur l'aspect défensif, il y a pas mal de questions, je ne vais pas forcément les citer, mais c'est une thématique qui revient pour pas mal de gens, c'est le fait de prendre 3 buts. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe de France a bien défendu, même si elle a pris 3 buts? Même si ces 3 buts, t'en as 2 qui sortent un petit peu de nulle part, t'en as quand même pris 3. Donc, où est-ce que tu mets le curseur entre le fait que c'est vraiment un jour où rien n'a tourné dans le bon sens et que si tu refais le même match, logiquement, t'en prends un grand maximum? Ou est-ce que, malgré tout, y avait quand même moyen de faire un tout petit peu mieux, soit sur le plan de jeu, soit sur les individualités?
Comme tu l'as dit, t'as quand même quasiment répondu à la question. Sur les 3 buts que tu prends, il y en a au moins 2, et encore le troisième est anecdotique parce que t'es vraiment dans les dernières minutes. Alors certes, tu t'encaisses presque le 4e à la toute fin là, avec les Argentins qui poussent à mort et qui ont un dernier centre très dangereux qui passe devant le but. Mais le 3e, tu sens déjà une équipe qui est un peu relâchée, un peu déconcentrée. Le 2e, du coup je l'ai fait à l'envers, je crois que Mercado veut même pas la dévier, il veut sortir sa jambe, et finalement il la dévie, il la met dedans. Certes, par contre, tu peux pointer du doigt la ligne qui est très mal jouée par Pavard, qui s'oublie, et c'est pas la seule fois du match d'ailleurs. Et en plus, c'est lui qui fait la faute juste avant sur le coup franc. Et enfin, le premier but... C'est comme je disais tout à l'heure, une remise en touche où j'ai l'impression que ça dormait un petit peu, et puis la balle arrive plein axe sur Di Maria qui met sa frappe de 30 mètres. Bon, c'est des... En fait, t'aurais perdu ce match, t'aurais vraiment eu les boules. Ça, c'est clair, parce que d'en prendre 3 et de prendre 3 buts comme ça, ça aurait été assez difficile à digérer, parce qu'ensuite, personnellement, je retiens plus la performance collective, et sur la performance collective et le plan de jeu défensif, que Raph a détaillé dans l'équipe et que je vais le laisser refaire sa démonstration après, mais quand tu mets la gestion de Messi entre Matuidi et Kanté sur le côté qui ont vraiment limité Messi à très peu de choses en fait dans ce match. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il se relâche à la fin que Messi peut lâcher sa super passe D pour Agüero, et surtout de l'autre côté un Pogba qui a mangé Banega dans tous les domaines et dans toutes les zones du terrain. À partir du moment où les Français arrivaient à verrouiller ces deux-là, franchement, cette Argentine-là avait plus grand-chose à proposer. Et d'un autre côté, le fait d'avoir pris 3 buts, peut-être que sur le plan du discours côté Deschamps, ça peut lui permettre aussi, d'un match à l'autre, de se dire « on en a pris 3 sur des détails », entre guillemets, et en effet, oui, plus des détails que des problèmes collectifs. Et ça va peut-être être l'occasion pour lui, d'un match à l'autre, d'encore plus insister sur ces détails-là, parce qu'au final, il a une équipe très jeune, et peut-être de faire passer le message que quand tu arrives à ce niveau-là, en huitième de Coupe du Monde, en quart de Coupe du Monde et peut-être en demi et en finale ensuite, rêvons. Mais peut-être de faire passer ce message-là que ben, l'accrochage de Pavard, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Peut-être que Pogba, au moment de faire la prise à deux, doit y aller de manière un peu plus intense et pas être juste dans la zone pour dire « Viens, on fait une prise à deux ». Peut-être que voilà, ça peut lui permettre de resserrer les boulons, vu qu'au final, ces trois buts sont un avertissement, mais sans frais, vu que t'es passé.
Raphaël, Florent parlait donc du marquage de Messi. Alors, c'est souvent les questions avant les matchs où t'affrontes Messi, que ça soit avec Barcelone ou la sélection. Là, la question se posait d'autant plus qu'il y a finalement, il n'y a pas d'énormes autres menaces. Donc, à partir du moment où tu arrivais à neutraliser Messi, t'étais quand même bien parti. Donc, Florent disait, bon, ça, il n'y a pas de surprise, embêter les rampes de lancement, Mascherano un petit peu et surtout Banega. Ouais. Ça a été bien fait par Pogba. Banega, j'avais les chiffres, mais c'est assez catastrophique. Je crois qu'il récupère 3 ballons, il en perd 19. Bon, c'est assez problématique. Mais sur Messi, parce que la balle arrivait quand même de temps en temps à Messi, heureusement pour lui. Et donc, il y avait Kanté qui le suivait, qui l'orientait vers la touche et vers Matuidi. C'est ça, en gros
ouais,
l'idée.
T'avais pas vraiment une individuelle. Alors, à part Pogba sur Banega, mais c'était pas vraiment une individuelle. C'était juste qu'à chaque fois que Banega allait recevoir le ballon, il sortait très très haut sur lui. Ça a parfois créé beaucoup de distance entre Pogba et Kanté, d'ailleurs. Oui, parfois, tu pouvais avoir Pogba d'un côté du terrain et Kanté quasiment à l'opposé. L'Argentine n'a pas su en profiter. Et en effet, du côté gauche du terrain, il y avait Kanté et Matuidi. Matuidi ne calculait pas du tout Enzo Pérez. Pour si on continue à faire nos comparaisons NBA, c'est comme si tu avais, je sais pas, dis-moi un des pires shooters à 3 points de NBA, Christophe.
Dwight Howard.
Voilà, si tu avais Dwight Howard qui était derrière une des 3 points et que tu ne devais pas le calculer, bah, c'est bien parce que ça permet à Matuidi, en fait, qui était là, de rester proche de Kanté. Et quand tu regardes les positions moyennes à la fin du match, Matuidi est limite collé à Kanté parce qu'en fait, ils ont toujours été à 2 dans la zone où Messi aime décrocher. Alors ça a créé des espaces comme je l'ai dit, notamment entre Pogba et Kanté. L'Argentine n'avait pas les joueurs pour en profiter, ni le système ni l'animation offensive, et finalement le risque qu'a pris Deschamps, et c'est pas un risque nouveau parce qu'on en avait déjà discuté, je crois, il y a un an ou un an et demi avec Flo, quand la France avait joué la Suède et que Matuidi était hyper orienté sur l'adversaire qui était dans sa zone et il le suivait très loin, ça avait mis en difficulté le milieu français. Là, ça l'a pas mis en difficulté du tout et ça a même vraiment gêné Messi, bon, qui s'en sort malgré ça en créant quelques occasions, mais dès qu'il recevait le ballon, il était agressé, il était suivi, et c'est un peu le thème qui ressort de ce match-là. C'est pour ça que le but de Di Maria, comme je l'ai tweeté un peu au moment où le but est inscrit, il est dur pour l'équipe de France, parce que c'est la seule séquence du match où il y a un mec qui est dans les 30 derniers mètres français et qui prend pas de pression. Et j'avais vu, je sais pas, une mesure de pression sur le porteur postée par un des tweetos anglo-saxons qui fait des stats. Et l'équipe de France n'était pas une équipe qui allait presser très haut, mais par contre, une fois que tu étais dans son camp, t'avais très peu de temps sur le ballon pour prendre une décision, pour te retourner. C'était une des équipes qui était la plus agressive dans ce domaine-là. Et ça s'est vu sur ce match-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que tous les créateurs argentins, les Banega, les Messi, même Di Maria en dehors du but, ils ont eu très très peu de temps avec le ballon pour voir ce qu'il y avait devant eux. Et il n'y avait de toute façon pas forcément toujours grand-chose. Et c'était un grand problème de l'Argentine offensivement aussi. Et je pense que Flo développe mieux que moi là-dessus.
Et c'est vrai que l'Argentine, malgré tout, a quand même insister sur ce côté-là, puisqu'on est à un peu plus de 50% des actions qui se déroulent dans un couloir, ce qui est quand même assez énorme. Généralement, même si les chiffres sont pas totalement équilibrés, on est plus sur du 38-40% maximum dans une zone du terrain. Florent, est-ce que parler un tout petit peu de l'Argentine, pour parler aussi de l'équipe de France, est-ce que l'Argentine aurait pu faire des choses mieux? C'est-à-dire, est-ce que Raphaël parlait des limites inhérentes à tout plan de jeu, mais à celui de l'équipe de France. Est-ce que l'Argentine aurait pu faire des choses différemment? Par exemple, on en parlait, c'est vrai que ça nous a un peu choqué sur, pendant le match, le fait d'inverser les pieds de Di Maria et Pavone qui étaient sur leur bon pied alors que Messi dézonnait, et du coup, tu avais un faux numéro 9 qui s'écartait, mais tu n'avais pas d'ailier qui pouvait repiquer sur leur pied fort. Est-ce que tu penses que l'Argentine avait quand même une marge de manœuvre pour faire mieux et que Sampaoli s'est un petit peu raté? Ou dans tous les cas, à partir du moment où tu as Enzo Pérez, etc., c'était quand même compliqué de faire différemment?
C'est très compliqué. Tu parles en effet des ailiers qui étaient sur leur bon pied, du coup qui restaient, c'était des ailiers de débordement donc des deux côtés, et donc un Messi qui dézonnait, qui était amené vers la touche, ce qui fait qu'il y avait personne dans l'axe, et surtout pour terminer ta démonstration, il n'y avait aucun des milieux qui était en mesure de se projeter et de finir et de remplacer un Messi qui déshonorait, comme un peu Paulinho peut parfois aller faire la pointe quand Jesus va s'associer sur le côté gauche avec Neymar, Marcelo, Coutinho, quoi. Et ça, bon, il y a Banega, c'est pas son truc. Pérez, on sait pas vraiment ce qu'est son truc. Et puis Mascherano, bon, c'est pas son taf de toute façon. Donc c'est vrai qu'à partir de là, il y avait quand même un gros problème pour l'Argentine de présence dans la surface. Et les rares moments où parfois, en plus, les Argentins parvenaient à faire des différences sur les côtés, c'est arrivé un petit peu avec Pavone et Mercado qui parfois étaient dans une situation plus avantageuse vu qu'il y avait Matuidi et Kanté, comme le disait Raphaël, sur Messi. Donc il y avait un peu d'espace pour eux. Et le problème pour eux, comme pour Di Maria de l'autre côté, c'est qu'à partir du moment où les mecs partaient en débordement, il y avait souvent personne dans la surface de réparation. Et du coup, ouais. des Français qui étaient tranquilles pour dégager. Donc très rapidement, en fait, le plan de jeu argentin, tu te posais la question sur le « Ok, bon, peut-être que Messi va leur... » En fait, à la base, quand tu découvres l'équipe, tu te dis « Ok, il met Messi au milieu, peut-être pour avoir un peu plus de contrôle, etc. » Bon, t'arrives au bout de 10 minutes et tu prends un but sur une perte de balle de Banega à 30 mètres du but français, tu te dis « Déjà, ça part mal pour leur plan. » Mais en plus, tu te dis que « Mais par contre, comment ils vont marquer ?» Parce que si Messi dézone et que les deux ailiers ne rentrent pas, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus rien devant.
Il n'y a pas un but qui est construit correctement, de toute façon.
Voilà, c'est ça.
Le bilan des trois buts.
Et quand tu fais le bilan des trois buts, tu te dis, ils ne pouvaient marquer que sur un exploit individuel, un truc improbable. C'est ce qui s'est passé avec la frappe de Di Maria. Même si, bon, laisser Di Maria 30 mètres, le but n'est pas forcément improbable. Mais dans l'idée, la situation l'est normalement.
Son positionnement est improbable parce que c'est la seule fois où il est à l'intérieur du jeu,
ouais,
quasiment.
Ouais. Ou alors, la deuxième, c'était le coup de pied arrêté, et c'est ce qui leur a permis de passer devant au score. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, tu vois le plan de jeu de départ, tu te dis, bon, il va essayer quelque chose, on va essayer de voir quoi. Tu découvres que les deux ailiers sont sur leurs pieds, et là, tu comprends encore moins. Et puis au final, au bout de 10 minutes, t'as compris que ce 11-là, en tout cas, n'avait pas forcément d'armes pour bouger un bloc français plutôt bien en place, quoi.
D'ailleurs, ça se voit pas sur le nombre de tirs ou le nombre de buts, mais sur les expected goals, par contre, là, tu mesures la qualité des occasions et tu te rends compte que c'est des... Enfin, il n'y a pas trois buts à marquer, quoi. Je crois qu'ils finissent à 0,64 et trois buts marqués, alors que, bon, la France finit pas à 4, hein, mais elle finit à 2 et tu... Ça commence quand même à être un peu plus. Alors, il y a le penalty qui rentre en compte, mais bon, en même temps, c'était tellement une faute évidente que c'est logique d'avoir une grosse occasion comme récompense. Mais tu sentais quand même cette dynamique offensive que chez les Argentins, t'as pas senti. Et quand tu te retrouves à mener à 2-1, tu te dis, mais enfin, tu vois, il y a eu 20 minutes où t'as raté un épisode.
Ouais, ils finissent, pour compléter, ils finissent donc à 0,64 sur 10 tirs. Donc, ça t'emmène à un expected goals par tir de 0,064, donc à peu près 6% de chance de marquer, ce qui n'est pas élevé du tout, sachant que les meilleurs. Aussi entre 13 et 15%, je crois, depuis le début de la compétition, c'est l'Espagne et la Belgique. Et les Français en face, en enlevant le penalty, donc en comptant 8 tirs pour 1,13 expected goals au total, ils sont par contre à un expected goals par tir de 0,141, donc 14% de chance, quasi ouais, plus de deux fois plus.
Ouais, c'est ça, c'est énorme la différence.
C'est une énorme différence, et pour compléter là-dessus, petite anecdote sur les Français sur 4 matchs joués depuis le début de la compétition. C'est anecdotique parce que l'échantillon est très faible, mais ça confirme quand même ce qu'on sait de cette équipe et ce qu'on dit depuis pas mal de temps. Donc 4 matchs face à l'Australie et au Danemark, ils avaient la possession entre 57 et 67% de possession. Ils finissent à un expected goals par tir entre 3 et 5% sur les deux matchs. Et face au Pérou, où ils n'ont pas la possession, ils terminent à 43% et contre l'Argentine, ils terminent à peu près à 40%. Et leur expected goals par tir est entre 14 et 15%. Donc voilà. Ça peut annoncer peut-être aussi un match très compliqué face à l'Uruguay.
Oui,
on en parlera tout à l'heure.
Oui.
N'empêche, vous parliez du fait que ça dézone et que du coup, il n'y avait personne dans l'axe pour reprendre les ballons. La passe map est quand même assez folle de l'Argentine. C'est-à-dire qu'on parle souvent des attaquants U. Mais ça se retrouve.
C'est une nouvelle forme, là.
C'est un V.
Là, c'est un berceau, quoi. Avec les anses des deux côtés, mais normalement, ton U, il y a quand même quelqu'un un peu tout seul devant, et puis ça se retrouve pas forcément à ce point-là sur les passe-maps, parce que c'est un peu circonstanciel, mais les gens bougent, etc. Là, le U, il est vraiment... même dans l'axe, il n'y a aucune trace, il n'y a pas de tréma sur le U, quoi.
C'est un berceau qui t'endort vraiment, parce que il se passe quand même pas grand-chose offensivement, et quand tu vois la qualité des joueurs sur le banc, t'as encore plus de regrets. Tu vois, je regardais les stats des joueurs individuels, notamment de Umtiti et Varane, parce que comme il n'y a pas d'attaquant, pas d'avant-centre, et qu'en plus Messi n'a pas réussi à se mettre face au jeu et à percuter, tu te demandes ce qu'ils ont pu faire, et c'est les joueurs qui sont quasiment le moins intervenus défensivement, quoi. Alors Varane, il a 5 dégagements, Umtiti 3, mais dans un match où tu as 40% de possession, c'est très peu finalement. Quand tu vas voir des stats des, je sais pas, de l'Atlético, de l'Uruguay et tout ça, des équipes qui comme ça ont des petites possessions, sur même quand tu affrontes le Portugal, tu en as un peu plus, quoi. Là, je vais un peu vérifier ce que font Godin. Tu vois, Godin, il finit à 7 dégagements. Jiménez, il finit à 9. C'est-à-dire que l'Argentine n'a même pas mis en difficulté la défense centrale française, malgré des séquences de possession assez hautes. Et ça, c'est quand tu arrives à être moins dangereux offensivement que le Portugal, alors que tu as Messi, alors que tu as Dybala, alors que tu as Agüero, Higuain, etc. C'est quand même un bilan très, très glauque pour l'ère Sampaoli.
Tu m'as fait une pré-transition sur une question de Wanner82 qui nous demande « Varane m'a semblé bien meilleur à la relance et comme ampoule, très bon défenseur, mais que penser de Umtiti ?» Tu peux même élargir à la défense en tant que telle, parce qu'on a parlé du plan de jeu qui, donc, pour vous, est à peu près sans reproche vu le contexte, si on prend les individualités, à la fois avec et sans le ballon.
Si on part avec le ballon, Umtiti n'est pas aussi brillant qu'il a l'habitude de l'être et... Il n'est pas non plus dégueulasse, mais disons qu'il ne casse pas forcément la ligne. Varane, ce qui a été bien, c'est qu'il le fait, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais il le fait de plus en plus, et là, il l'a beaucoup fait. Il l'avait déjà fait une fois, je crois, ou deux, sur le troisième match contre le Danemark, mais le Danemark était tellement bas que même si tu l'as raté, il n'y avait pas tellement de risques. Là, il l'a fait contre l'Argentine, il a réussi à casser la ligne deux, trois fois, et d'ailleurs, sur la passe-meuble, on a remarqué ça avec Flo juste avant d'enregistrer, il y a une vraie flèche, plus épaisse que d'habitude, de Varane à Mbappé. Mais Mbappé a notamment demandé le ballon à l'intérieur du jeu, et ça c'est bon signe, parce qu'avant la flèche qui partait le plus souvent de Varane, c'était vers le latéral droit, et notamment Sidi Bé sur le match contre le Danemark. Là elle a disparu, donc c'est une bonne chose sur la partie défensive. Alors Varane ou Umtiti solide comme d'habitude, Pavard en a parlé, en grande difficulté au moment de défendre dans des 1 contre 1, et aussi sur le positionnement en ligne défensive, quand il faut jouer le hors-jeu, quand il faut remonter rapidement, il a du mal. Mais après, quand il joue central, c'est un peu normal, parce que d'habitude tu remontes après tes latéraux, donc c'est un peu différent. Et après, sur le Lucas Hernandez, on est tellement impressionné avec Flo, par ce joueur, que je vais lui laisser la parole, parce que c'est un type de joueur qu'on n'avait pas forcément en équipe de France et qui, sur ce mondial, risque de se faire une place pour une petite décennie.
Ouais, Florent, Raphaël nous y emmène. Lucas Hernandez, qui, s'il y a deux actions qui ressortent de son match, même s'il n'a pas fait que ça, c'est évidemment les deux centres qui aboutissent indirectement au deuxième but, au but de l'égalisation, puis au but du 3-2. Rien que ça, c'est au-delà de son tempérament très, très siméonesque dans l'esprit, ses qualités défensives, etc. Rien que le fait d'être capable de faire ça quand t'es latéral, en plus pas latéral de formation. Alors bon, il est laissé seul par Pavone, donc il peut déborder, etc. N'empêche qu'il fait ses deux centres, c'est les deux seuls qu'il fait du match. Les deux aboutissent à un but. Finalement, tu te dis que quant à ça, la blessure, la méforme de Benjamin Mendy post-blessure se ressent finalement pas, parce que t'as Lucas qui défend mieux et qui offensivement donne tout à fait le change.
Ouais, c'est ça. Il y a pas grand chose à rajouter là encore. C'est une vraie surprise de le voir en fait aussi à l'aise offensivement, parce que même avec l'Atlético, on le voyait pas se lâcher autant, j'ai l'impression. Christophe, tu voyais l'Atlético plus souvent que moi cette saison, mais tu voyais quand même une vraie différence. Évidemment, par rapport à Philippe et Luis, c'est logique, parce que c'est pas non plus le même degré sur le plan technique et offensif, mais je m'attendais pas à avoir un joueur capable de se lâcher autant offensivement en fait.
Il a d'une maturité surtout dans ses décisions, c'est ça qui fait qu'il attaque au bon moment, qu'il défend au bon moment, qu'il défend de la bonne façon, tu vois. Parce qu'il a pas tant de montées que ça, mais quand il monte,
ouais, c'est pas pour rien. Ouais.
Il y a souvent un truc, quoi.
C'est pas pour rien, et il y a même une séquence en deuxième mi-temps qui était très très siméonesque d'ailleurs, parce que tu as la France mène 4-2, t'as Griezmann qui récupère la balle et qui est tourné justement vers le couloir gauche de Lucas, et tu vois, t'aperçois Lucas qui passe très vite fait dans le champ. Et qui part hors champ, parce qu'il part dans le couloir en fait pour une nouvelle fois passer dans le dos de Pavone. Et là, c'est Griezmann qui le calme et qui lui dit non, repart derrière, là c'est bon, on va calmer. Je sais plus à quel moment on doit être entre la 70e et la 80e minute, je pense. Je pense que les Bleus viennent de mettre le 4-2.
Ouais, c'est à 4-2, je crois que c'est à la 71e. Hein.
Et voilà une séquence où il était encore à fond dans son couloir. Mais ce qui est intéressant, ouais, c'est qu'il est très bon des deux côtés du terrain, et même défensivement, il est beaucoup plus sécurisant que Mendy, ou même pour comparer aux deux autres latéraux de l'autre côté que Pavard et Sidibé. Là, sur ce match encore aujourd'hui, il termine, alors il en rate deux, mais il termine avec 5 tacles réussis sur 7. C'est lui qui tacle le plus dans le match. Et ensuite, il faut ajouter à ça une interception, 2 dégagements, parce qu'évidemment, il a aussi ses bases de centrale qui font qu'il n'oublie pas de fermer au deuxième poteau, ce qui arrive par contre très souvent aux autres latéraux français.
Et aux jeunes latéraux souvent,
ouais. Ouais. Et en termes de bloc, il est à 2 passes ou 2 tirs bloqués, je sais plus.
Et même sur la partie offensive, c'est le français qui crée le plus d'occasions, 2. Il a tenté 2 centres, il en réussit 2.
Et puis un joueur.
Enfin, il a une qualité de centre, après je te laisserai, Flo. Juste, tu vois, le Mendy, Sidibé, c'est des bons centreurs, mais parfois ils envoient un centre complètement foireux, qui finit au deuxième, troisième poteau et qui va dans la tribune. Et j'ai jamais vu ça chez Hernandez. C'est-à-dire que ses centres, même quand ils trouvent pas de destinataire, ils sont toujours au moins dans une zone qui est jouable pour le partenaire. Et c'est quand même très rare de voir une telle régularité. Il a peut-être un plafond moins haut que Mendy offensivement, et sans doute, mais par contre, il a une régularité beaucoup plus rassurante. Mais
en fait, il cherche surtout la zone libre, en fait, dans la surface, j'ai l'impression. Plus que, plus que chercher à centrer fort, etc.
Ouais, ouais.
Mais à chaque fois, le truc, c'est de le mettre dans la zone libre. D'ailleurs, sur le centre en retrait, sur le premier but d'Mbappé, tu vois vraiment qu'il recherche cette zone à l'entrée de la surface, là. Et pour terminer d'ailleurs sur lui, donc joueur agressif comme je le disais dans le bon sens du terme, c'est un peu un Uruguayen qui se retrouverait avec le maillot de l'équipe de France pour avoir vu.
En plus, il a le nom.
Oui, il a le nom qui colle, ouais. Mais qui termine avec une seule faute. Alors certes, c'est dans une zone dangereuse puisque c'est un coup de pied arrêté. C'est quasiment un corner ouvert qui donne en toute fin de match à l'Argentine. Mais une seule faute dans le match pour 7 tacles tentés, c'est aussi quelque chose d'assez propre, entre guillemets, surtout quand on connaît son tempérament. Voilà.
Raphaël, question à deux entrées sur l'équipe de France et sur la phase offensive. Déjà, comment est-ce que tu juges la relation Giroud-Griezmann ? Tu en as fait une palette sur l'équipe, donc tu pourras développer un petit peu relation qui est une relation sans en être une, c'est-à-dire ils étaient collègues mais ils se sont pas trop trouvés. Et la deuxième, est-ce que le fait que l'équipe de France, dès qu'elle est accélérée parce qu'elle était menée et qu'elle cherchait à attaquer, ait réussi à tout de suite trouver la faille, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a un mieux, on parlait d'Hernandez là, est-ce que ça veut dire que l'équipe de France a progressé ou alors simplement que l'Argentine, qui ne sait pas défendre sur des grands espaces, ne sait pas non plus en défendre de plus petit quand elle défend bas?
Ouais, ça fait beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par la relation Giroud-Griezmann et si j'ai plus de respiration à la fin, je donnerai la parole à Flo. Sur la relation Giroud-Griezmann, t'as dit ouais, c'est des collègues. Bah, alors, c'est un peu comme s'ils étaient dans le même open space, mais qu'ils étaient vraiment à deux extrémités. Et alors, c'était forcé là par le contexte du match où t'avais notamment un Griezmann qui était amené à reculer pour guider les contre-attaques. Il y en a une aussi où il récupère le ballon assez bas, il y a une feinte, il met Mascherano par terre, et c'était aussi pour ça qu'il était là. Mais la distance entre les deux s'est souvent agrandie. Il y a eu que 2 passes entre les deux, et c'était 2 de Giroud pour Griezmann. Et le souci pour Giroud, qui d'habitude est un joueur de déviation de remise pour Griezmann, c'est que là, il a été mangé dans les duels aériens. Il en gagne 1 sur 9. Et à partir du moment où lui ne peut pas, de façon par la course, par la conduite de balle, faire des différences dans les longs espaces, il lui reste que le jeu aérien, parce que l'équipe de France le cherche rarement au sol. Et sur le jeu aérien, s'il gagne pas ses duels, bah c'est pour Griezmann, en fait, c'est le ballon qui retombe un peu au hasard et c'est difficile d'anticiper. Donc finalement, là, sur cette relation, elle n'a pas existé comme elle n'avait pas existé contre le Danemark. Par contre, Mbappé en a profité assez souvent, où en fait les Argentins renvoyaient les ballons vers les côtés et pas vers l'axe, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais par contre, Mbappé était plus vif et allait plus vite pour retomber, pour être en tout cas au bon endroit à la retombée du ballon. Et c'est comme ça que sur la première grosse occasion de la France, le coup franc de Griezmann, c'est Mbappé qui récupère un deuxième ballon que Giroud oblige à renvoyer sur le côté de la part des Argentins. Mbappé le récupère, il percute, il élimine 2-3 joueurs et il se fait faucher à 25 mètres. Donc finalement, même si elle n'a pas existé, cette relation, le poids de Giroud qui a un peu embêté les Argentins a permis à Mbappé d'arriver un peu lancé, de se retrouver sur des ballons face au jeu, que la France a quand même encore un peu de mal à mettre en place et à trouver par de la construction. Si tu acceptes le quatrième but et quelques relances de Varane un peu osées, c'est plus souvent des joueurs lancés dans le dos de la défense que tu trouves que des joueurs face au jeu à l'intérieur entre les lignes.
Je vais lancer du coup Florent pour la deuxième partie de la question. Est-ce que tu trouves que la France a vraiment bien attaqué quand elle était menée ou c'est simplement que l'Argentine défendait tellement mal que dans tous les cas, à partir du moment où tu décidais toi-même d'accélérer et de mettre les ballons dans la surface, ça allait forcément payer?
Non, moi je pense qu'on a vu des beaux mouvements, certes face à une mauvaise défense, mais les mouvements étaient plutôt intéressants. Le quatrième but, c'est un truc d'école, quoi. L'action est parfaitement menée. Au final, tu ne fais que punir une équipe qui était incapable de défendre à partir du moment où tu avais autant le ballon qu'elle, et c'est ce qui se passe sur cette période entre la 50e et la 70e minute où tu mets tes 3 buts. Et non, je pense que c'est une belle base pour la suite. En fait, je pense que ça montre aussi que l'équipe de France, c'est une équipe qui en a encore sous la semelle et qui n'exploitera pas, mais ça on l'a déjà dit plusieurs fois ici et ça fait quelques temps maintenant qu'on l'a compris, qui n'exploitera pas pleinement ce potentiel-là qu'on a vu lorsqu'elle était menée avec Deschamps, du fait à 0-0, on penche plus pour attendre l'erreur de l'adversaire, le prendre au piège en contre-attaque. Par contre, quand on est mené, on est obligé de changer de rythme et de montrer d'autres choses, de prendre plus de risques. Et du coup, c'est passé à l'intérieur. C'est un petit peu l'illustration de cette obligation de prendre plus de risques pour revenir et renverser le match. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que les Français renversent quand même assez rapidement une situation qui tourne pas à leur avantage. Je me rappelle du match aller face à la Suède lors des éliminatoires où ça prend un but de Forsberg sur coup franc. Et il me semble que dans les 10 ou 15 minutes qui suivent, les Français accélèrent vraiment très très fort et renversent la situation et gagnent 2-1 au final à la fin, mais grâce à ce temps fort d'une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Et on a eu un peu droit à ça encore aujourd'hui. Le problème de cette situation, c'est quand tu te retrouves face à une grosse défense et que tu te retrouves mené au score, et ben forcément, si ce genre de mouvement-là, t'as pas forcément non plus l'habitude de les développer, mais surtout qu'en face, t'as une défense qui est compétente pour défendre et souffrir et contenir tes attaques, et ben le fait de réagir à 0-1, ben, ça peut par exemple te faire perdre une finale d'Euro, quoi.
Raphaël, question du Sneaky Basta qui nous demande: est-ce que la défense argentine n'est pas la pire défense d'une grande nation à mondial depuis très très longtemps? Et j'en profite pour rajouter une question parce que j'aime bien rajouter des questions. Florent disait qu'en gros l'Argentine était incompétente pour défendre à partir du moment où tu avais autant le ballon qu'elle. Est-ce que du coup ça contredit pas un petit peu, mais je me fais un peu l'avocat du diable, mais la théorie comme quoi le fait de contrer, d'avoir que 35% de possession en première mi-temps était efficace si à partir du moment où tu avais le ballon, tu pouvais aussi être dangereux.
Sur la première partie, sur la pire défense d'une grande nation depuis quelques temps, je sais pas, faudrait se remémorer un peu les grandes nations, mais enfin, ça dépend ce que tu parles. Est-ce que tu parles de défense et de qualité individuelle, ou est-ce que tu parles de qualité collective au moment de défendre collectivement? Parce que l'Allemagne, quand même, s'est quand même bien placée sur cette Coupe du Monde aussi, même si elle a été bien plus équilibrée offensivement que l'Argentine a été, défensivement, c'était quand même en grande difficulté. Je pense que si tu regardes l'historique des Coupes du Monde depuis 10, 15, même 20 ans, les tenants du titre, ou en tout cas les générations qui avaient brillé, finissent toujours par durer trop longtemps, où le sélectionneur leur fait confiance un mondial de trop, et il le paye de manière assez douloureuse à chaque fois. Donc je pense que si tu refais l'historique, ça ne doit pas dater d'il y a très longtemps, la pire défense d'une grande nation. Sur la deuxième partie de la question, il faut que tu me la reposes, et que tu me la reposes de manière plus simple, parce que j'ai plus l'habitude de répondre à ces questions compliquées sur Twitter. Vas-y, je t'en prie.
Non, ça, c'était une question de Christophe Kuchli, c'est-à-dire moi. De savoir.
Mais tu gagnes un tweet aussi.
Tu peux ne pas être d'accord avec Florent, mais Florent disait, et ça s'est vu, que l'Argentine ne savait pas défendre à partir du moment où tu avais autant le ballon qu'elle.
Ouais.
Est-ce que du coup, ça ne contredit pas en moi en partie la théorie qui veut que c'était très bien de l'attendre, si tu pouvais être dangereux en faisant autrement?
Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle savait défendre sur aucune phase aussi, l'Argentine. Donc il n'y avait pas de mauvaise solution pour les déranger, tu vois.
Donc il n'y en a pas de bonne non plus.
Oui, non, mais il y en avait. Alors peut-être que tu aurais marqué. On a eu ce débat avec qui, je sais plus qui, sur Paco Remez à un moment. Et je crois que c'est quand il avait pris un 10-0 ou 10-1 au Real.
10-2, ouais, contre le Real.
Et les gens avaient dit, ouais, c'est n'importe quoi, il est trop ambitieux, machin. Et tu te dis, mais il y a des équipes qui vont à Bernabeu et qui en prennent 6-7 en défendant de manière très compacte et très bas, parce que de toute façon, tu finis toujours par être cassé par la qualité individuelle en face et par le nombre de talents qu'ils ont. Donc. Là, c'est un peu pareil. Je pense que c'était tellement déséquilibré, l'Argentine, et même s'ils étaient forts en possession parfois, ils étaient incapables de presser à la perte, de par le manque d'efforts de certains, de par l'effondrement athlétique d'autres, que tu avais plein de manières de les battre. Et d'ailleurs, si tu regardes les matchs où ils ont été mis en difficulté, tu as l'Islande qui a attendu très bas et l'Argentine n'a pas réussi à se créer d'occasion. Tu as Nigeria qui a contré très vite avec des profils très percutants, très athlétiques dans la profondeur. Tu as la France qui avait un peu des deux. Donc
la Croatie qui allait les chercher quand même assez haut en embêtant Mascherano.
C'est ça, donc c'est une équipe qui avait trop de défaillances collectives et individuelles pour que ça dure longtemps. Et je pense que quel que soit le plan que tu construisais, à partir du moment où il était cohérent et bien appliqué par tes joueurs, ça devait s'écrouler. Et les 3 buts et le 4-3 est quasiment miraculeux pour l'Argentine.
Florent Biguissos nous amène sur les questions individuelles. Encore beaucoup de critiques sur le match de Pogba, alors qu'il a été énorme, il a récupéré beaucoup de ballons. Donc 10 records du match, 2 fois plus que n'importe quel autre Français. Toujours tenter les passes difficiles, ce qui explique son déchet. Comment expliquez-vous l'acharnement sur lui?
L'acharnement...
Après, tu n'es pas obligé d'expliquer l'acharnement, mais on parle un peu de Pogba et des individualités françaises qui t'ont marqué dans un sens ou dans l'autre.
Le fait déjà d'éteindre totalement Banega, ça, on lui doit quand même pour beaucoup, 90 si ce n'est pas à 100%. Il a dominé dans, comme je le disais, dans toutes les zones du terrain et dans tous les compartiments du jeu. Il y a une phase assez terrible, il me semble, où c'est lui qui porte la balle et Banega essaie de s'accrocher à lui et en fait il n'y arrive pas et il finit par exploser, par chuter, il me semble. Mais moi, là où j'ai bien aimé Pogba, c'est dans sa capacité à jouer très vite vers l'avant après la récupération. C'est là qu'on l'attend, qu'on l'attend dans cette configuration-là où l'équipe de France laisse la possession et joue le contre. L'importance de la première touche, c'est quand même assez capital. Et là, Pogba en a fait plusieurs très intéressantes. D'ailleurs, je crois que c'est un des joueurs qui donne le plus de ballons à Mbappé dans le match. Après, le problème, c'est qu'il a toujours ces séquences de chill, où il est... Je ne sais pas si c'est de la déconcentration, mais où il va toujours traverser dans le match des séquences de 2-3 minutes. Ça peut être juste sur une séquence ponctuelle, mais ça peut coûter cher parce que, comme je disais tout à l'heure, sur Pavard, il va à l'aide sur Di Maria avec Pavard, et puis finalement, en fait, il y va, mais en marchant, il se retrouve à côté, il ne met pas forcément plus d'intensité dans la zone que ce que mettait Pavard, et puis finalement ils se font piéger puisque Pavard accroche alors que Di Maria passe entre les deux. Il y a plusieurs séquences comme ça, il y a aussi des séquences où il veut, à l'inverse de jouer très vite vers l'avant, soit garder un peu plus la balle, soit jouer latéralement, et là peut-être parce que c'est plus facile ou parce que je sais pas, et là il y a plus de déchets en fait. Donc c'est assez paradoxal. En gros, il maîtrise les choses compliquées, parfois les choses plus simples, ça passe un peu à côté. Mais sur son match, et même quand tu remontes sur sa compétition, autant face à l'Australie, il était un petit peu à blâmer dans le sens où, au-delà du fait d'être décisif, il y avait... En gros, face à l'Australie, ce qu'on pouvait peut-être lui reprocher, c'est que pour quelqu'un qui veut prendre les clés de l'équipe de France, etc., sur le terrain, par l'exemple, sur le plan de l'engagement, de l'intensité, de l'agressivité, pour quelqu'un qui en plus avait déjà connu une Coupe du Monde, il n'était pas forcément au rendez-vous comme d'autres, hein, comme Griezmann, comme les autres joueurs qui étaient censés être les cadres de cette équipe. Mais depuis le Pérou, il n'y a pas grand-chose à redire à ses prestations. De toute façon, il n'a pas joué face au Danemark. Mais, il est en train de se poser un petit peu comme lors de l'Euro 2016. Où il avait démarré par un très petit premier match, il était sorti lors du match 2, il me semble, et revenu sur le troisième, et ensuite il était monté en puissance jusqu'au bout. Et bien là, il a l'air d'être sur la même trajectoire, même s'il y a encore des petites scories à gommer, comme celles que j'ai décryptées un peu plus tôt.
C'est les 3-4 pertes de balles quand il est sous pression et qu'il force, qui sont énervantes. Un peu comme pour Neymar d'ailleurs, quand il force dans le 1 contre 2, lui c'est quand il force, quand il est sous pression, où il arrive à contrôler un ballon impossible à contrôler pour n'importe quel autre joueur. Et ensuite, il force, tu sais, en essayant de dribbler, de se retourner. Alors que s'il fait le contrôle incroyable, puis une passe face à lui, toute simple, à un central qui est face au jeu, tout le monde sera content et dira ah, putain, quel joueur. Et en fait, il force sur des trucs qu'il, en plus, il est capable de faire et de sortir parfois. Mais quand il perd le ballon, c'est hyper dangereux, souvent. Parce qu'en plus, maintenant, dans ce rôle où Deschamps le place assez bas, et c'était pareil à l'Euro 2016, ses pertes de balles coûtent plus cher que les pertes de balles d'un joueur plus offensif ou du poste qu'il pouvait avoir à la Juve.
Ouais, là par exemple, juste sur les pertes de balles, il finit avec 6 ballons perdus, c'est autant que Mbappé, c'est plus que Griezmann qui était ou Giroud qui était à des postes plus à risque. Et sur les 6 ballons perdus, il en perd notamment deux dans l'axe et dans sa moitié de terrain. Un dans le rond central et un peu plus bas. Et ça, c'est des pertes de balles qui sont particulièrement gênantes parce que ce sont les plus dangereuses. Les quatre autres, il les perd le long de la ligne de touche sur le flanc droit. Donc c'est plus facile à compenser et à verrouiller derrière. Mais ces deux pertes de balles dans l'axe, c'est le genre de truc qui doivent disparaître si t'affrontes l'Uruguay, mais surtout si tu te retrouves face à un Brésil, par exemple, au tour suivant, quoi, en demi-finale.
Notre ami Mathias Edwards a une question pour toi, Raphaël. Après un 100 mètres départ arrêté entre Mbappé et Otamendi, combien de hot wings Kiki a le temps de manger sur les lignes d'arrivée avant que l'Argentin ne le rejoigne?
Ça, c'est une très bonne question. Mais la question encore plus intéressante, c'est après avoir mangé les hot wings, avec combien de mètres d'avance il termine son deuxième 100 mètres sur Otamendi? Parce que je pense qu'il y a un tel écart entre les deux qu'il pourrait se faire une grande bouffe avant. Et...
Combien de hot wings avant que Otamendi le double? Parce qu'il ne faudrait pas 5 buckets et qu'il soit en train de vomir.
Je pense qu'il faudrait en effet qu'il ait rempli sa carte de fidélité et qu'il vraiment il soit devenu tout gros. Non, mais c'est une question marrante de Mathias, mais on l'a sélectionné parce que c'était aussi pour parler de Mbappé, qui a été, critiqué à outrance depuis le début de la Coupe du Monde, alors que c'est le joueur français qui fait le plus de différence. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de son intelligence de jeu en étant comme ça droitier à droite, alors que plus personne ne sait jouer comme ça quasiment. Et que les gens qui... Quand j'avais posté ça et dit ça, les gens m'ont tous renvoyé le Roi Sané à la tête. Mais enfin, le Roi Sané, il a toujours des 1 contre 1 à jouer parce qu'il est mis dans des positions ultra favorables par Guardiola. C'est un style de jeu complètement différent. Là, Mbappé, il vit des situations très différentes pendant les matchs. D'un match à l'autre, ce n'est pas du tout le même contexte. Il est dans une équipe qui n'est pas habituée à développer un jeu ensemble, collectif, et un jeu de position, c'est une toute autre mission. Et là, Mbappé, dans ses choix, c'est incroyable. Après, il y a sa capacité athlétique, sa vitesse de dribble, sa fréquence de dribble, sa capacité à conduire le ballon à une vitesse à laquelle les autres n'arrivent même pas à courir. Enfin, tu vois, c'est... Il me semble qu'on avait parlé de l'expérience de Mbappé dans un épisode de manière très longue, il y a peut-être un an et demi, Florent, et on avait fait la comparaison avec Ronaldo, qui est évidente.
Le Ronaldo, par contre, le Ronaldo qui arrive au PSV, quoi, dans ses premières
années. C'est ça, ouais.
C'est-à-dire celui qui n'a pas encore fait les énormes cures un peu spéciales pour finir avec des cuisses gigantesques et qui ont un peu gâché sa carrière derrière puisque ça a un peu niqué ses genoux.
Le Ronaldo PSV, Barça, ouais, Inter, voilà. Quoi, avant l'inspiration d'Archeville.
Oui, voilà, c'est ça. Mais le Ronaldo du début, parce qu'il dégage pas la puissance que, par exemple, dégageait Ronaldo en 97 au Barça, ou 98, je sais plus quelle est la bonne année. Retrouver, si vous allez sur YouTube, c'est ça qu'on avait dit justement il y a un an et demi, si vous arrivez à trouver des compiles de Ronaldo 95 ou 96, quand il arrive au PSV, il y en a quelques-unes qui traînent, et vous allez voir sa manière de courir, sa manière de porter la balle, etc. Il y a pas mal de choses qui vont vous rappeler Mbappé. Le Mbappé, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure mettre 80 mètres à tout le monde. Et tu disais, ce qui était assez terrible, je crois que c'est en première mi-temps, il y a une séquence, c'est pas celle du pénalty, c'est une autre, mais où il se retrouve à courir, à passer devant Mascherano à pleine vitesse et à conduire la balle. Et en fait, il va plus vite avec le ballon que Mascherano sort.
Oui, c'était
absolument terrible à voir. Et je dis Mascherano, mais il y avait 2-3 Argentins aussi qui n'arrivaient pas à le reprendre, quoi.
Et chaque prise de balle est faite en mouvement et avec une orientation. C'est ça qui est dingue aussi, c'est qu'il n'y a aucune neutralité dans ces gestes techniques. Tout est fait pour éliminer un joueur ou aller de l'avant. Et ça, c'est incroyable parce que c'est des bases, c'est des trucs que tu répètes à l'école de foot à 6, 7, 8, 9 ans, ou alors quand tu joues au City Stade avec tes potes. Et lui, il a intégré ça, mais d'une manière inouïe et peut-être inédite, tu vois. Enfin, je pense qu'en France, il y a très rarement eu un dribbleur aussi naturel et aussi productif et de manière aussi intelligente, quoi. C'est du dribble logique, c'est du dribble pour avancer, c'est du dribble qui devient concret très rapidement. Et ça, c'est à cet âge-là en plus, avec cette qualité de finition qu'on a vu encore, qui est peut-être le truc qui peut encore améliorer. Mais là, sur le coup, alors la vitesse d'exécution sur le premier ou la frappe pied gauche n'est pas bonne, mais l'enchaînement est tellement rapide que je pense que ça met en difficulté Armani. Et puis le deuxième, où c'est quand même un but ultra important, l'appel est bon, il est bien coordonné, c'est un joueur qui est quasiment, qui est très rarement hors-jeu de sa faute. Et là, sur le coup, il finit très tranquillement. Donc c'est un match de top 5, 6 mondial, tu vois. Et quand tu fais le bilan des joueurs offensifs sur cette compétition, On en parlait pour Pogba qui a quand même beaucoup de choses à épurer, mais il est parmi les 6-7 meilleurs. Et Mbappé, offensivement, là, il est. Enfin, je ne vois pas un joueur qui a fait une performance aussi bonne offensivement, peut-être à part Coutinho. Il y a eu les triplés de Ronaldo, il y a eu le triplé de Kane, mais c'était pas aussi impressionnant visuellement et même statistiquement, parce que là, il réussit 7 dribbles, il subit 4 fautes, il a 2 tirs, ça fait 2 buts. Enfin, j'ai tweeté, j'ai dit quand j'ai discuté avec des potes, c'est un bordel. Enfin, il n'y a pas d'autre mot pour un tel joueur.
Raph, du coup, il sera à nouveau testé face à l'Uruguay dans une configuration différente, puisque tu as toutes les chances de tomber sur un bloc bas.
Ouais.
Et en plus, pas juste un bloc bas qui sait défendre et qui est à l'aise dans cette situation-là.
Ouais, ouais, c'est d'ailleurs ce que Flo voulait évoquer quand on a décidé d'analyser ce match, et pour lancer un peu cette séquence sur l'Uruguay et le Portugal, où on s'attendait à un match fermé. On l'a eu, Florent, mais l'Uruguay s'est mis très vite dans la bonne situation. C'est-à-dire qu'on savait que l'équipe qui marquerait le premier but dans ce match-là serait très à l'aise. Et avec ce but de Cavani, je crois que c'est à la 7e minute, sur le double 1-2 géant entre Suarez et Cavani, ben ils ont infligé au Portugal ce que le Portugal avait infligé à ses adversaires à l'Euro, c'est-à-dire un bloc impénétrable, très frustrant, rempli de vices, de gains de temps aussi. Quand c'est l'Uruguay qui défend aussi bien, mais qui est aussi capable d'attaquer, on le verra aussi avec Christophe, là tu tombes sur une équipe complète qu'on avait imaginée en poule et qui s'est construite notamment avec l'entrée de Torreira dans l'équipe et ce passage au 4-4 de Los Angeles.
Ouais, qui s'est construite lors du match face à la Russie, lors du troisième match, à partir du moment où les joueurs de couloir n'étaient pas performants, il est venu au Los Angeles, et c'est un Los Angeles qu'on avait déjà vu avec cet Uruguay. Alors c'était pas les mêmes joueurs, mais moi je me rappelle d'une équipe où tu avais un 4-3-1-2 avec Cavani, Suarez devant, et c'est Nicolas Lodeiro qui faisait le piston entre le poste de troisième attaquant ou de numéro 10, comme vous préférez, et ensuite qui rejoignait la ligne de 4 lorsqu'il fallait défendre. Aujourd'hui, donc, et comme face à la Russie, c'est Bentancourt qui a fait ce boulot pendant un peu plus d'une heure, puisqu'il est sorti après, remplacé par Christian Rodriguez. Un changement qui a ensuite validé le passage de nouveau au 4-4-2 avec Rodriguez et Nandez sur les côtés et Torreira, Vecino dans l'axe. Et oui, une équipe de l'Uruguay, comme on la connaît, qui a été capable de, alors pour se focaliser sur l'aspect défensif, de séquences assez simples de pressing dans la moitié de terrain portugaise. Ils ont posé beaucoup de problèmes aux Portugais pour repartir depuis Rui Patricio. Alors pourtant, si les Portugais avaient peut-être d'autres solutions, au final ils ont juste opposé Suarez et Cavani à Pep et Fonte sur les côtés, et puis il y avait Bentancourt qui allait se poser dans l'axe pour couper la relation vers William Carvalho ou Adrien Silva depuis Rui Patricio. Et puis très souvent, les Portugais n'avaient pas vraiment d'autres solutions, ne tentaient pas de sortir autrement en faisant décrocher un autre joueur par exemple, ou en ouvrant sur les côtés, donc les Uruguayens récupéraient assez facilement des ballons comme ça. Mais ensuite, c'est vrai que sur le reste du match, on a surtout vu une équipe très solide, qui défendait d'abord en 4-3 dans sa moitié de terrain, puis en 4-4 avec Cavani qui rejoignait, enfin Bentancourt d'abord qui intégrait la ligne des milieux, puis Cavani qui redescendait aussi pour aider les défenseurs. Il n'y avait que Suarez qui restait devant en target man un peu à cibler, qui essaie de garder la balle ensuite au duel avec Pep ou Fonte pour permettre ensuite au bloc de remonter.
Une grosse target, hein, donc c'est plus simple pour les défenseurs au moment où ils récupèrent le ballon.
Plus facile à viser, c'est vrai. Plus facile à viser. Il ne faut pas tirer trop haut par contre, parce que
sinon
il ne peut pas aller la chercher. Mais... Non, mais voilà, après tu as eu un match, quand tu regardes un petit peu les maps des tacles tentés, des dégagements, en fait tu vois qu'ils ont contrôlé toutes les zones dangereuses. Au niveau des tacles, y en a beaucoup qui se concentrent des deux côtés du terrain et dans les half space, de manière notamment à empêcher les Portugais de repiquer intérieur, ce qu'aime bien faire Bernardo Silva à droite, ce qu'a tenté de faire plusieurs fois Ronaldo en première mi-temps pour tenter de frapper après. Il a aussi retenté en deuxième. Ensuite, quand tu regardes les dégagements, tu parlais de Godin et Jiménez qui finissent à 16 dégagements sur 31. Contrôle de la surface de réparation, notamment de la zone de danger. La majorité de leurs dégagements se situe dans cette zone-là, plein axe. Ils ont en plus des latéraux qui ont été assez sérieux à ce niveau, et notamment Laxalt qui est auteur d'un sauvetage assez monstrueux dans les arrêts de jeu du match. Je pense que c'est devant André Silva qui traîne au deuxième poteau sur un centre.
Ça n'excuse pas sa coupe de cheveux, mais bon match de sa part.
Non, très gros match, ouais. Et il était bien rentré lors du match face à la Russie. C'était difficile de le jauger vu l'adversité. Mais là, c'était quand même un peu plus compliqué. Il avait Bernardo Silva en face. Il avait d'autres clients, quoi. Il a eu Quaresma en fin de match. Il s'en est très bien sorti et gros volume de jeu aussi de sa part parce que sur la fin de match aussi, il a tenté de sortir balle au pied pour essayer de créer des choses en contre-attaque. C'est pas allé jusqu'au bout, mais il y a eu 2-3 sorties de balle assez rapides qui montraient qu'il en avait encore un petit peu dans le moteur, quoi. Donc gros volume. Et de toute façon, cette équipe-là, quand tu ajoutes, alors évidemment, il y a Godín et Jiménez, Cáceres qui fait un petit peu office de point faible quand même sur le flanc droit, mais qui garde au minimum la grinta qu'on connaît aux Uruguayens. Mais quand tu ajoutes Laxalt, Torreira, Nández, c'est trois vrais morts de faim et trois joueurs assez jeunes aussi. Donc c'est une équipe qui déjà en arrivant en quart de finale a rempli sans doute son premier objectif, mais qui va être très très compliqué à jouer, qu'il y ait Cavani ou pas d'ailleurs, même si Cavani a fait un très très grand match, ça va être très compliqué de leur mettre un but. D'ailleurs, au final, depuis le début du tournoi, ils n'ont concédé qu'une seule grosse occasion, et c'est la tête de Pep sur corner.
Et c'est le seul but qu'ils prennent.
Et c'est le seul but qu'ils prennent, évidemment.
Et alors, Christophe Laurent a parlé de Cavani, c'est vrai que si on fait le bilan des tirs et des expected goals, ça finit à 20 tirs à 5 pour le Portugal. Alors le Portugal n'a eu qu'une seule vraie bonne occasion, c'est celle de Pep. L'Uruguay n'a eu qu'une seule aussi, mais énorme, qui est quasiment à 0-4, c'est la tête de Cavani, le premier but. Ensuite, il y a le deuxième qui est sur vraiment une finesse technique de finition dans un angle difficile. Mais c'est une équipe qui défend très bien, qui attaque peu, et c'est un type d'adversaire qui colle pas vraiment à la France, parce que là, tu vas devoir développer du jeu dans le camp adverse. Et c'est quelque chose que l'équipe de France a du mal à faire, en tout cas a du mal à faire depuis 2-3 ans désormais.
Heureusement, pour moi, ce qui peut être vraiment bon pour l'équipe de France, c'est que j'ai l'impression que l'Uruguay peut parfois devenir un peu une caricature de lui-même, dans le sens où, tu vois, autant sur l'équipe de France, je pense que là, bon, c'est forcément limité, on va pas faire 3 heures sur ce match-là, mais tu peux aborder, il y a plusieurs physionomies, il y a des moments forts, des moments faibles, il y a des joueurs qui ont fait des choses qui ont marché, qui ont moins bien marché, enfin bref. T'as quand même un match avec des profils assez variés où il y a pas mal de sujets d'entrée. Là, sur l'Uruguay, il y a quand même pas énormément à dire. Tu parlais des 5 tirs, c'est vrai qu'ils finissent à 0,47 expected goals, ça doit être 0,40 sur le premier but, 0,05 sur le deuxième. Enfin, t'as quasiment rien d'autre hormis le premier but en vraiment grosse occasion. Le deuxième, bon, il est beau, mais Cavani le mettra pas tous les jours. Et c'est vrai que le profil de l'équipe est très clairement pas du tout favorable à l'équipe de France, parce que c'est une équipe qui défend bas, mais qui aime défendre bas et qui sait défendre bas. Et on l'a vu face au Portugal en fin de match, même Laxalt qui a commencé, enfin, je sais pas s'il a commencé sa carrière, mais en tout cas, je le voyais souvent quand il était jeune jouer ailier et qui en club est un latéral de défense à 3, donc qui joue beaucoup plus haut. Là, finalement, il avait des interventions à faire très basses sur le terrain et finalement il s'en sortait très bien, même dans sa surface plus floue à part du dégagement, mais à un moment je crois que c'est dans les pieds de Cristiano Ronaldo où il prend le ballon limite de dos dans les dernières minutes, où tu dis c'est quand même hyper risqué parce que sur un petit crochet, sur une petite feinte de corps, tu peux choper la jambe plutôt que le pied. Donc clairement cette équipe là elle est compétente pour défendre bas. Après je trouve qu'elle aurait pu faire plus de choses et que dès qu'elle pressait, même si c'était sur des phases très spécifiques, genre les 6 mètres du gardien adverse, rien que le fait d'être assez haut, ça lui permettait de récupérer le ballon au milieu de terrain et elle n'était pas forcément incompétente avec le ballon. Elle arrivait à faire quelques trucs, notamment parce que Cavani, avant sa blessure, on verra s'il revient, je suis pas très optimiste, mais Cavani arrivait à faire des choses pas mal avec le ballon, des orientations, des transversales, etc. Suarez était dans son meilleur jour depuis le début de la compétition, même si c'est toujours pas le Suarez d'il y a 3-4 ans. Ça restait quand même vraiment pas mal dans les appels. Honnêtement, je trouvais qu'il était moins lent que d'habitude. Il arrivait à faire des bonnes courses. Bien sûr, il y a ce 1-2 où là, pareil, t'as aussi la finesse technique. Mais même sur la toute fin de match, quand Suarez doit garder des ballons, doit imposer son physique, il y a une action où ça balance loin devant et puis tout seul, il arrive à mettre par terre 2 adversaires. Ensuite, il centre pour Rodriguez, qui est un petit peu court, parce que Rodriguez, ouais, il rentre à la 60e, mais à la 70e, il est déjà cramé.
Tu sens juste que dans un 1 contre 1 lancé ou face au jeu, il n'y arrivera plus, tu vois.
Là, c'était
Ariel à Liverpool il y a 2-3 ans, il y a 3-4 ans.
Il a fait un peu la roublardise, voilà. Mais alors, l'Uruguay, honnêtement, super bonne équipe, mais t'as vraiment l'impression que ça joue tellement sur le côté, on est à 100%, alors 110, 120%, enfin peu importe, mais tout le monde est tellement à bloc tout le temps, quitte parfois à faire, je vais pas dire n'importe quoi, mais t'as Torreira et Nández qui chacun leur tour dans le match sont mis à jouer alors qu'ils étaient à 4 patchs une balle de la tête, sachant que Nandez l'avait déjà fait au précédent match. Alors c'est un truc, c'est très beau, c'est très visuel, ça montre beaucoup de courage, mais je pense que l'Uruguay, qui mérite sa qualification et qui a fait ce qu'il fallait, est capable de faire d'autres choses. Et je pense que face à l'équipe de France, vu les talents de l'équipe de France, il faudra quand même être capable d'attaquer un tout petit peu plus, parce que quand tu vois que dès la 25e, 30e minute, Cavani se retrouvait parfois limite milieu axial, voire on suivait à track back, être milieu défensif, c'est très beau, t'as l'esprit de sacrifice, t'as l'investissement défensif des joueurs, mais parfois tu peux tomber presque trop dans la caricature et te dire bah, c'est bien d'aller aider ton milieu, mais peut-être que si tu vas pas les aider, ils s'en sortent quand même, et du coup t'économises de l'énergie ou t'es mieux placé s'il y a une contre-attaque, une transition à jouer. Donc honnêtement, moi j'aime beaucoup cette équipe de l'Uruguay, elle me rappelle l'Atlético et je l'apprécie pour les mêmes raisons qui sont parfois très cyniques et parfois négatives, mais c'est tellement bien fait que tu peux qu'applaudir. Mais je pense
c'est un pays qui a 2 ou 3 millions d'habitants aussi, ouais, donc c'est plus justifié que c'est plus justifié quand t'es, parce qu'il y avait une question, je sais plus qui sur Twitter, qui disait pourquoi on félicite l'Uruguay pour la même chose où on critique la France, parce qu'il y a quand même un réservoir moins profond, parce que c'est vrai que t'as 2 stars devant, t'as des joueurs prometteurs au milieu, t'as une défense centrale de bon niveau, t'es quand même beaucoup moins fourni que l'Espagne, l'Allemagne, l'équipe de France, le Brésil, et qu'un pays comme ça aussi modeste et avec aussi peu d'habitants et de joueurs de foot, juste naturellement en termes de quantité, puisse avoir autant de qualité, c'est déjà un exploit.
Il y a une tradition aussi, ouais, je vais laisser Flo parler, mais juste là-bas, la garage, ouais. Machin, c'est la culture, et c'est pas du tout la même culture que t'as en Espagne, en Italie, en France, et finalement, cette équipe-là, quand elle fait ça, mais c'est comme l'Atlético, c'est culturel, elle est fidèle à ses valeurs, et finalement, c'est ce que t'attends de l'Uruguay, donc elle va pas contre nature, tu vois, c'est pas l'Argentine qui d'un coup se met à être super défensive pour gagner parce que d'être expansif ça marche pas. Là c'est l'Uruguay qui a toujours été comme ça, et finalement l'anomalie c'est presque d'avoir un Lodero à l'époque ou un Bentancur qui sont offensifs mais qui sont presque nonchalants et qui ont pas toujours cette grinta, quoi.
Et le symbole de ça, de cette transformation de certains joueurs, c'est Torreira, Florent. Parce qu'on le connaît à la Sampdoria pour sa manière de distribuer le jeu, de se retourner, d'être bon sous pression. Là, ça a été un match de clébard qu'il a fait.
Ouais, c'est un match de chien de la casse, comme certains me disent sur Twitter. Bah, il est vraiment allé au combat plusieurs fois. J'en parlais tout à l'heure sur Ronaldo, qui repiquait intérieur. Mais oui, il a été vraiment partout sur les deuxièmes ballons, dans les orientations aussi, il a plutôt été intéressant pour éviter de tomber dans certains pièges que pouvaient tendre les milieux portugais. Donc ouais, il fait un très grand match. Il est annoncé vers Arsenal, il me semble. Je sais plus si.
Ouais,
c'est,
mais
si
de c'est moins en moins annoncé, donc.
Ouais, du coup, ça va peut-être un petit peu. Il est peut-être en train de négocier quelque chose, ouais. En tout cas, ses agents. Mais non, ouais, c'est une vraie. Enfin, moi, je ne le connaissais pas par rapport à la Sampdoria, mais une vraie découverte sur les deux matchs, parce que je l'avais trouvé très bon aussi face à la Russie, dont j'avais vu la première mi-temps. Et là, bah, il a tout simplement confirmé au niveau supérieur. Et les Uruguayens avaient perdu un milieu de terrain très emblématique de leur précédente campagne, qui était Arevalo Rios.
Le grand Arevalo.
Et voilà, mais qui n'avançait quand même plus sur les dernières sorties du Uruguay, ça devenait très problématique.
Lui était un vrai chacal aussi.
Oui, mais là, en fait, tu récupères un chacal qui est en ordre de marche, en fait, qui a encore des
quatre pattes
très fonctionnelles et qui a des pieds en plus. Et du coup, un joueur très agréable à voir dans cette équipe et très agréable, sans doute, à suivre la saison prochaine, justement, s'il découvre un club un peu plus connu que la Samp. Sans offenser les supporters du club génois.
D'ailleurs, à la Samp, il joue souvent point de base dans un losange également, donc ouais, ça l'a peut-être aidé dans son intégration. Question, on se projette toujours sur ce match France-Uruguay qui se jouera vendredi, je crois, à 16h, parce que l'équipe de France ne joue que l'après-midi.
Juste un truc, avant ta question, parce qu'on va passer sur France-Uruguay, du coup, parler un peu du Portugal et de la différence entre les deux mi-temps. En première période, donc on avait le schéma habituel avec Ronaldo Guedes qui était associé devant, Bernardo Silva côté droit, João Mario côté gauche et la paire Adrien Silva-William Carvalho qui était la paire qui avait fait déjouer tant de milieux de terrain lors du dernier Euro. Donc Au final, sur la première mi-temps, ils ont quasiment rien produit. Ils ont eu beaucoup de mal à créer le danger, beaucoup de mal à enchaîner aussi dans les 30 derniers mètres, voire dans les 20 derniers mètres de l'Uruguay. Et ensuite, à la mi-temps, réajustement qu'il faut signaler, je trouve, parce que Bernardo Silva a vraiment gagné en influence et en poids sur la... Il a beaucoup plus pesé, pardon, sur le jeu portugais en passant numéro 10 derrière Ronaldo en deuxième mi-temps, Guedes passant côté gauche et João Mario côté droit. Et filer les clés à Bernardo Silva, en fait, ça leur a permis justement d'avoir ces petites combinaisons et cette conservation, pardon, de balles dans les 30 derniers mètres et même plus près de la surface de réparation, parce que Bernardo Silva, en termes de conduite de balle, il était capable de surfer entre justement les petits gabarits uruguayens qui étaient Nandes, Torreira, Bentancur ou Vecino, même si ces deux derniers sont un peu plus grands. Mais bref, ses conduites de balle et sa conservation du ballon permettaient au Portugal de faire encore plus reculer l'Uruguay un peu plus bas, de combiner à 2-3 sur les côtés par exemple, et ça a permis au Portugal d'avoir beaucoup plus de positions, à défaut de positions de tir dangereux, parce qu'au final ils en ont pas eu, si, mis à part le corner, mais ils ont eu des positions de centre qui auraient pu finalement faire craquer à un moment donné l'Uruguay. Donc une deuxième mi-temps bien meilleure, mais malheureusement pour eux ça n'a pas suffi. Mais bon, quand tu vois quand même la différence entre la configuration numéro 1 en première et celle en deuxième, tu dis que Santos n'avait peut-être pas opté pour la meilleure solution qui était celle justement qu'il avait choisie sur les matchs de poule et qui n'avait pas non plus été très convaincante après le match face à l'Espagne en fait. Parce que face au Maroc, ils avaient quasiment rien produit après avoir mis leur premier but sur coup de pied arrêté. Ouais.
Et face à l'Iran, ils ont frisé la catastrophe.
Voilà, ils ont frôlé la catastrophe. Donc, une compétition sans doute beaucoup moins bien gérée, forcément, ils sortent en huitième, mais que le dernier Euro. Et les,
beaucoup moins chanceuse aussi.
Ouais, chanceuse aussi, mais tu sais, à l'Euro, il avait eu du mal à trouver la bonne formule durant la phase de poule. Et puis finalement, il avait trouvé quelque chose à peu près lors du troisième match, il me semble, Adrien Silva et William. Et derrière, ils avaient gardé cette formule, ils avaient gardé les points forts qu'on avait vus au fil de la compétition. Et là, j'ai l'impression que cette fois, il n'a pas réussi à trouver la bonne formule avec les joueurs, ou alors trop tard, avec les joueurs qu'il avait à disposition.
L'absence de Renato Sanchez, sans doute, qui avait été décisif en 2016.
C'est vrai qu'il était rentré dans l'équipe.
Ouais. Ça va vite, le foot. Question, donc je voulais poser une question à Christophe sur la projection France-Uruguay, notamment une question qui va te plaire, Christophe, parce que ça va toucher des joueurs que tu connais bien. Alors il y a une question de la demi-volée qui demande à quel point une éventuelle absence de Cavani peut nuire au jeu de la Céleste et quelles sont les alternatives. Donc tu as eu un pari au long cours toute la saison, donc on n'avait pas révélé jusque-là, mais sur le fait que beaucoup d'Uruguayens seraient parmi les meilleurs buteurs de la Liga. Je ne me rappelle plus quel chiffre tu avais donné exactement. Mais...
J'avais dit 3 dans les 5, et ouais, de tête je crois qu'ils terminent 3 dans les 7, parce que Griezmann et Ronaldo sont passés devant... Et sinon, les autres, c'était Aspas et Messi, mais ouais, t'avais Stuani Gomez et le troisième m'échappe, et Suarez, qui est dans les meilleurs buteurs espagnols.
Et bah justement, parle-nous un peu de Stuani et de Maxi Gomez, qui sont les alternatives par rapport à Cavani. Alors, c'est des profils quand même très différents de ce que proposait Cavani, et notamment dans la vélocité et la vivacité, ça attaque pas la profondeur de la même façon.
Bah ouais, les deux, je pense que déjà les deux sont, alors pas forcément ultra grands, mais bons de la tête. Stuani plus dans le timing et la détente. Alors c'est pas Aduriz, mais c'est quand même un peu ce style de joueur-là qui est pas si grand que ça, mais qui émande vraiment tous les ballons de la tête et qui, à Gérone, alors que c'était l'un des rares grands, gagnait mais tous les duels aériens, même contre l'Atlético Madrid, il arrivait à prendre soit Godin, soit Jiménez de la tête. Enfin, je crois que c'était souvent Savic, mais bref, vraiment très gros sens du timing, etc. Maxi Gomez lui est plus massif. Il gagne ses duels aériens, mais en étant un peu moins vertical, un peu plus en jouant des coups, en donnant des coups de cul, etc. Plus à la Borisio.
Il est maxi, mais, quoi.
C'est ça. Mais les deux sont malgré tout dans un registre, donc tu disais moins véloce, je pense que Stuani est quand même un peu plus rapide, mais qui font moins de travail défensif de manière générale. Et là, par exemple, l'entrée de Stuani, tu sentais quand même que même s'il était frais, bah ça, tu le voyais un peu moins. Bon, après, la configuration était particulière parce que là, ça mettait les barbelés derrière, mais tu l'as pas forcément vu beaucoup aider. Dans tous les cas, je pense que sur un match contre l'équipe de France, ça va t'apporter sur les coups de pied arrêtés, parce que bon, ils ont pas la tête au premier poteau où Cavani plonge et tout ça, mais dans tous les cas, sur un coup franc, ça te donne ou un corner, une menace supplémentaire sur les duels aériens. Après, les deux sont quand même dans un registre beaucoup moins mobile où tu participes beaucoup moins à l'effort défensif, et surtout quand Gomez peut faire des bonnes passes, mais parce qu'il est habitué à sa relation avec Iago Aspas, qui est l'autre attaquant du Celta, et les deux c'est quasiment, hormis Messi Suarez, ça doit être le meilleur binôme de buteurs en Liga, et les deux sont habitués à jouer ensemble et vraiment savent se trouver. Donc Gomez sait sentir le jeu, sait sentir la complémentarité avec un attaquant. Je pense qu'avec Suarez ça ira. Après, il peut être un peu déconnecté de ses autres partenaires. En plus, bon, il avait sur les ailes notamment Sisto, qui parfois jouait plus le coup individuellement que collectivement. Stuani, lui, c'est, je crois que ses expected assists, si on parle dans les stats un peu rarement utilisés, mais de tous les joueurs un peu connus de Liga attaquants, il est, je pense, que c'est d'assez loin le pire. Et globalement, bon, après, le système de jeu de Gérone fait que tu t'es pas forcément besoin qu'il fasse des remises, etc. Mais en gros, il est habitué à être un peu seul devant et à se démerder avec son physique, etc.
Ouais,
et
il est en bout de chaîne et il est un peu loin du reste. Il a plus vraiment de joueur à qui donner le ballon une fois que c'est arrivé jusqu'à lui.
C'est ça. Et autant un Giroud qui pourrait être un peu dans le même profil va faire des remises. Lui, s'il fait un contrôle, c'est pour ensuite se l'emmener et partir, quoi. Ou alors il va faire la remise, mais très loin du but, sur un latéral, parce que vu que c'est une défense à 3, un latéral qui va déborder. Mais autant Gomez Suarez, ça peut être une bonne association. Autant Stuani, faut réussir à lui mettre les ballons dans la surface, sinon il peut vite être assez inopérant, ou alors il va se révéler sur cette compétition-là. Hein. Mais ça reste quand même deux attaquants de surface avant tout, beaucoup, beaucoup moins complet que Cavani, qui en plus se révèle encore beaucoup plus complet qu'on ne le connaissait sur cette compétition-là, avec des vrais talents presque de meneur de jeu sur certaines phases.
Ouais, un peu à l'ancienne, à la Palerme ou à Naples au début, quand il décrochait très bas, quand il était énervé, qu'il avait envie de marquer un but, je crois que c'est, je sais plus quel but, mais dont je suis fan, c'est contre Lecce, je crois, Christophe, où je sais pas, il prend un ballon à 40 mètres, il dérive trois joueurs, il met une frappe en lucarne, un truc comme ça, où t'as l'impression qu'il avait juste décidé de marquer, il le fait, c'est une des séquences qu'on voit plus trop au PSG, parce qu'il évolue beaucoup plus haut et il décroche moins.
Le pire dans cette action, c'est déjà qu'il y a un sauvetage sur la ligne juste avant la contre-attaque, et surtout qu'il y a encore plein de solutions. Il remonte le terrain, il est à 28 mètres et il décide de frapper, il envoie une lucarne alors que c'est la 94e. Dans l'absolu, le choix est totalement stupide de frapper de là alors que c'est la dernière seconde. Enfin, personne ne fait ça, sauf qu'il...
Mais
sauf
c'est ultra charismatique par contre.
Ah oui, bah d'ailleurs le commentateur a failli décéder.
Non mais c'était vraiment impressionnant, je vous conseille de chercher Cavani frappe de loin ou un truc comme ça sur YouTube, vous verrez que c'est choquant. Une question pour Florent désormais. Une question de Daniel Priolo, qui vient de Nice, qui a une très belle photo de profil, on voit des palmiers derrière. Bravo Daniel, qui nous demande, avec Mathieu Di blessé, alors Mathieu Di n'est pas blessé mais suspendu, qui peut le remplacer pour assurer la meilleure animation offensive et avec quel système ? C'est vrai que là, tu as une vraie question pour Deschamps, qui avait l'habitude de mettre donc ce Mathieu Di dans un rôle hybride de milieu pour couvrir le couloir et en même temps venir aider Kanté à l'intérieur. Et dans les autres profils de milieu de terrain ou de milieu offensif, il n'y a pas vraiment de remplaçant idéal. Si tu veux un gaucher capable de défendre, Lemar serait le plus proche, mais il s'est peut-être un peu grillé sur le match contre le Danemark qui n'a pas dû plaire à Deschamps, où il avait notamment corrigé sur son positionnement assez régulièrement. Donc quelle serait l'idée si tu veux garder cet équilibre défensif et ce gars capable d'aider Kanté ?
Eh bien, c'est une bonne question. Non mais je là à l'heure actuelle je vois pas vraiment, parce que comme tu le dis, Lemar a sans doute pas marqué de points face au Danemark, parce que autant Dembélé à droite dans l'exécution c'était assez catastrophique, mais les idées pour bouger un bloc bas étaient plutôt bonnes. Autant Lemar a plusieurs fois ralenti le jeu, était plusieurs fois sur des lignes de passe qui auraient permis de trouver directement un Giroud, par exemple, dos au jeu, et qui pourrait remiser ensuite sur Griezmann ou sur un Giroud, par exemple.
Du mal à s'organiser avec Griezmann entre les lignes pour
occuper
plusieurs hauteurs, plusieurs largeurs en même temps.
C'est ça. Et du coup, ça va être une vraie question. En tout cas, au moins cette suspension de Matuidi dans un match où on va affronter une équipe regroupée, ça peut être presque un mal pour un bien, mais ça va obliger Deschamps de trouver autre chose. Mais c'est vrai que vu la perf de Lemar face au Danemark, il n'y a pas de remplaçant naturel qui se pose forcément, et je je vois pas vraiment. En tout cas, dans le 4-4-2, je vois pas de solution.
Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ce serait pas le moment de revenir à un 4-3-3 véritable? Alors là, c'est pas vraiment un 4-2-3-1, c'est un 4-2-3-1 asymétrique où Matuidi revient à l'intérieur. Donc c'est un 4-3-3 où en fait ton milieu gauche avance pas alors que ton milieu droit Mbappé est quasiment un attaquant. Mmh. En gros, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est pas justement le moment de revenir à un 4-3-3 avec un joueur capable, le troisième milieu en gros, d'apporter des projections de la qualité? À ce moment-là, le nom de Tolisso revient.
Oui, le nom de Tolisso reviendrait, le nom de Pogba aussi, parce qu'il est capable évidemment de se projeter aussi. C'est vrai que ça peut se poser, parce qu'en plus, moi, sur ses entrées, je le trouve assez convaincant, c'est Fekir. Et en plus, oui. le fait de repasser à trois attaquants, j'en parlais tout à l'heure du système de l'Uruguay qui est en 4-4-2 quand on défend bas, mais qui au départ est en 4-3-3. Quand l'adversaire remonte le terrain, et puis Bentancourt reglisse dans le milieu de terrain lorsque l'Uruguay rentre à peu près dans ses 40-30 derniers mètres, la transition soit à peu près là.
Avec les trois attaquants très à l'intérieur, Florent, parce que le Portugal a souvent changé d'aile pour aller trouver une solution à l'opposé. Ouais. Il y a eu pas mal de centraux qui sont allés chercher Guerreiro et. C'était qui à droite? Ricardo Pereira.
Ricardo Pereira.
Voilà, et à ce moment-là, ils avancent avec le ballon, pas sur beaucoup parce que l'Uruguay se replaçait bien, mais au départ, c'était vraiment le 4-3-3 Liverpool. Où on attend à l'intérieur et l'extérieur, on les calcule pas trop au départ.
Ouais, mais en fait, il y a aussi quelque chose qui est peut-être à utiliser. Quand je parle justement du repli de Bentancourt, il y a peut-être des choses à faire sur les séquences où les Uruguayens seront un peu hauts, mais justement avec un milieu avec seulement trois joueurs, et peut-être qu'avec beaucoup de projections, beaucoup de mouvements dans cette zone-là, sur des attaques assez rapides, alors que les Uruguayens n'ont pas encore retrouvé leur bloc bas, il y a peut-être des choses à faire, et justement en mettant du monde dans cette zone-là, en autorisant des joueurs, les projections de certains joueurs dans l'axe, d'où l'idée de passer à trois milieux, comme ça t'en auras toujours deux ou un pour assurer la sécurité, ce sera sans doute Kanté. Il y a aussi côté joueur, Fekir, tout comme je parlais de Bernardo Silva tout à l'heure, je pense qu'il est capable de faire un match aussi très intéressant pour se balader, entre guillemets, parce que ça ne sera pas une promenade de santé entre les joueurs qu'on a décrit tout à l'heure, Torreira, Nandez, etc. Mais je pense que c'est un joueur qui peut leur faire mal dans le cœur du jeu à ce niveau-là, juste par ses prises de balles et sa capacité à éliminer un, deux joueurs, à les obliger à dézoner, ouais. Et à écarter ensuite, par exemple.
Sa frappe à 25-30 mètres peut être aussi importante contre l'Uruguay qui... Parce que soit ils vont sortir le cadré, soit ils vont le laisser frapper. Dans ces cas-là, tu as une solution supplémentaire qui n'existe pas trop chez les autres joueurs français.
C'est ça. Il y a sa frappe de loin aussi. Le problème de tout ça, du fait de passer à trois au milieu, de réintégrer peut-être un Fekir, enfin de l'intégrer même dans le 11, le problème de tout ça, c'est qu'au final, tu es obligé de sacrifier quelqu'un devant. Et la question, c'est qui, quand tu sors des deux matchs? Griezmann ne sortira pas de l'équipe de toute façon. Mbappé, après son match sur les huitièmes, c'est impossible qu'il sorte derrière. Reste Giroud, mais Giroud, face à un Uruguay contre lequel tu vas énormément centrer sans doute, tu ne vas pas le sortir non plus. Donc, ouais. Il y a vraiment pas mal de questions qui se posent, et je suis assez pressé de savoir ce que va faire Deschamps. Logiquement, connaissant les habitudes, je pense que jeudi midi, on aura la compo et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que la suspension de Matuidi ouvre beaucoup de possibilités, et beaucoup de possibilités intéressantes, parce que je pense que si Matuidi avait été là, je pense que Deschamps aurait gardé la même équipe et qu'on y serait allé comme ça, et qu'on aurait eu sans doute un peu plus de mal que face à l'Argentine.
Mais Flo, est-ce que tu penses pas que Didier va faire du Deschamps et carrément te balancer un N'Zonzi qui permuterait avec Pogba, mais un truc ultra conservateur, plutôt que de partir sur le côté l'Uruguay joue en losange, il y a de l'espace sur les côtés, on va mettre une flèche. Est-ce qu'il, le connaissant, tu penses pas qu'il va au contraire faire le truc inverse et dire on va presque bétonner, quoi, rajouter encore un mec qui est plutôt d'un profil défensif et qui occupera la zone, mais qui en fait ne jouera pas véritablement comme un titulaire de ce poste-là.
C'est-à-dire que tu le mets où du coup?
Bah tu en 6, j'imagine, avec Kanté
et tu mets Pogba à gauche du coup.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais.
Il l'a déjà fait. Hein.
Oui, il l'a déjà fait, et ça pourrait
peut-être... Non, mais moi, je veux tout sauf ça, mais je me pose la question de savoir si ça va pas s'articuler sur un truc un peu comme ça.
Après, hein. Si t'affrontes Stuani ou Gomez, un N'Zonzi pour éviter un 2 contre 2 derrière, c'est logique aussi.
Oui, non, c'est pour ça. Enfin, il y a quand même un minimum de réflexion dans ma bêtise.
Excuse-nous, Christophe.
Mais, Non, non, mais forcément pour son gabarit, etc. Mais du coup, de te dire, bah, on, mine de rien, on fait rentrer quand même un profil en, presque encore plus défensif que Matuidi, plutôt que de faire rentrer un profil offensif, vu que vos, dans vos réflexions, c'est quand même une fuite en avant par, le, par l'attaque plutôt que par la défense.
C'est, ouais, c'est possible, mais après, tu vas quand même devoir faire face à un bloc bas. Est-ce que tu supprimes une option? Parce que Pogba va toujours revenir à l'intérieur. C'est-à-dire que tu demandes beaucoup, tu t'en demandes beaucoup après à Lucas dans le couloir gauche pour apporter de... Il a la qualité pour le faire, parce qu'il a, est-ce qu'il a la qualité pour le faire 4 fois par match ou 15 fois par match? Ça, c'est... Ça, je... c'est une... Enfin, il n'y a pas vraiment de réponse, mais c'est vrai que quand tu réfléchis, il y a beaucoup d'options et aucune n'est similaire. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ce que va faire Deschamps.
Il y a énormément d'options et il n'y en a aussi aucune qu'on aura vu avant, en fait. Quasiment, ouais, parce que... Alors, si,
à part Lemar.
À part le milieu avec Lemar, oui. Qui est au final le remplaçant le plus naturel à l'heure actuelle, mais se pose encore la question de ses performances actuelles. On a aperçu ça face au Danemark, et ensuite aux entraînements où il n'a pas l'air non plus hyper, hyper convaincant, vu qu'il n'est pas forcément dans la discussion pour jouer, quoi.
Très bien. Messieurs, est-ce que vous avez un mot à rajouter sur ce Uruguay-France qui nous attend le 6 juillet à 16h, ou est-ce qu'on passe au petit pari de PMU.fr?
Passons au petit pari de PMU.fr.
Très bien, Christophe, tu as l'air tellement enthousiaste que je vais te lancer. Alors, on a passé, il me semble, des paris, Florent, sur la journée qu'on vient de vivre.
On a passé
France-Argentine, je crois qu'on avait plus de 2,5 buts, je crois, un truc
ouais,
comme ça.
Ça s'est passé, et moi, sur France-Argentine, j'avais aussi un truc qui est passé, je ne sais plus ce que c'est.
Peut-être la France gagne la deuxième mi-temps.
Oui, c'était ça. La France remporte la deuxième mi-temps à 2,45. Et Christophe avait plus de 2,5 qui était à 2,05, il me semble.
Je crois. Ouais, je sais plus.
Je sais que c'était les deux paris qu'on avait placés sur ce match-là.
Ouais. Et les deux sont passés. Bon, par contre, moi, Uruguay-Portugal, c'est pas passé. J'avais mi-temps avec le plus de buts et j'avais dit autant de buts en première qu'en deuxième. Le but de Pep m'a mis un peu dedans, vu que j'attendais plus un 2-0 qu'autre chose. Mmh. Et après, je sais plus ce que Christophe avait sur Uruguay-Portugal.
Sans doute
je crois que j'avais nul, mais c'est pas très intéressant.
Voilà. Bon, bah alors essaie de nous intéresser, Christophe, avec un premier pari que tu as sur la journée de demain. Ça concerne le match entre la Croatie et le Danemark.
Oui, match intéressant et match, alors pour la petite anecdote, on va pas vous faire tout le détail, mais avec Florent on s'est fait un peu un bracket comme ils font en NCAA pour la March Madness, et on avait les mêmes résultats sur tous les matchs jusqu'à la finale, sauf la victoire finale où on arrivait à une finale Brésil-Espagne. Moi je voyais plutôt le Brésil, Flo était plutôt sur l'Espagne, mais sinon sur tous les matchs jusque là on était en accord, sauf sur celui-là où Florent sent bien une victoire danoise. Moi, au contraire, je vois une victoire croate avec la Croatie à moins un but, à 3-10. Donc, c'est-à-dire que la Croatie gagnerait avec deux buts d'écart ou plus. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que le Danemark est totalement, enfin, la vision du Danemark est totalement faussée par le match contre l'équipe de France, et la solidité de son bloc me semble quand même assez hautement surélevée. Je garde quand même en mémoire que je vais pas dire que c'est une escroquerie que cette équipe soit là, mais disons ça a quand même bien tourné pour elle, et la plupart des matchs tu te dis que quand tu vois la manière dont ça jouait, le Pérou notamment perd 1-0, mais le Pérou aurait dû gagner ce match-là. En tout cas, si tu le refais 10 fois, je pense que le Pérou le gagne 7 ou 8. Alors bravo au Danemark pour avoir gagné, il n'y a pas question de remettre en cause, mais je pense que la roue a tellement bien tourné dans le bon sens qu'on en vient un peu à mésestimer le réel niveau de cette équipe-là. Et je pense que face à la Croatie, t'es trop peu armé pour résister défensivement sur ton bloc bas. Je pense que la Croatie est capable de le faire exploser de plein de manières différentes, soit avec les débordements, mais qui peut aussi repiquer dans l'axe sans ballon et devenir deuxième attaquant de Kramaric, soit avec Mandzukic sur les duels aériens, soit sur coup de pied arrêté ou frappe lointaine avec un milieu qui logiquement devrait être assez supérieur au tien. Alors t'as la variable Eriksen, mais je pense que si le Danemark est mené, je le vois pas capable de véritablement trouver la solution. Je pense que si la Croatie marque avant la 60e, il y a de grandes chances que la Croatie en mette un deuxième, parce que le Danemark, à partir du moment où il essaye de faire quelque chose, il se déséquilibre assez vite, et puis on en avait parlé sur les deux premiers matchs, ses temps faibles sont vraiment très très faibles. Tu peux avoir 30 minutes assez indigentes au milieu d'un match qui pour jusque-là semblait très bien maîtrisé. Donc je pense que la Croatie, même si ça ne sera pas forcément facile, je pense qu'une fois le premier but marqué, ça se débloquera. Donc Croatie -1, cote à 3-10.
D'accord. Florent, tu es un peu plus convaincu par la force défensive danoise et tu les imagines bien embêter la Croatie au moins pendant 45 minutes.
Voilà, au moins 45 minutes. Alors, oui, pour rebondir sur l'histoire de Brackett, en effet, c'est le match, mais je ne vois pas une victoire danoise, je vois une qualification danoise au tir au but. C'est pas tout à fait la même chose.
Oh, la subtilité du garçon.
Ah, ben oui, il y a une subtilité.
La sémantique.
En effet, en gros, il y a aussi quelque chose d'un peu irrationnel dans le sens où tu vois tous les huitièmes de finale. Et en fait, quand je vois tous ces huitièmes, la seule surprise que j'imagine, grosse surprise, équipe capable de passer alors qu'on ne l'attend pas du tout, c'est sur ce Croatie-Danemark et c'est le Danemark en fait. Mais vraiment par la petite porte, quoi. Comme je disais, un 0-0 tir au but ou un 0-1 sur leur seule occasion avec Eriksen qui plante un coup franc ou un truc improbable. Et aussi le fait que la Croatie c'est une équipe qui est redoutable en transition mais qui peut avoir des soucis face à des blocs bas. Là j'ai remonté un petit peu leur qualification pour la Coupe du Monde et dans le groupe ça affronte notamment ça croise l'Islande, ça perd 1-0 en Islande, ça va faire un match nul en Grèce, ça va faire un 0-0 face à la Grèce, hein.
Impressionnant de faire match nul face à cette grande nation de football.
et ensuite, c'est vrai que jusqu'ici, ils ont certes battu une Islande lors de la dernière journée, mais une Islande qui devait se découvrir parce qu'il fallait qu'elle aille chercher la victoire pour espérer la qualif. Donc je me dis que s'ils croisent en effet le bloc bas qu'on a vu face à la France, parce que je pense pas que les Danois soient beaucoup plus ambitieux face aux Croates que ce qu'ils ont été face aux Français. Je me dis qu'en plus, s'il y a beaucoup de talent au milieu de terrain côté croate, il y en a moins que chez les Français devant. Perisic, Rebic, qu'on a vu titulaire sur les ailes, ce sont des joueurs qui ont besoin d'espace quand même pour s'exprimer, faire parler leur qualité. Et je pense que les Danois vont vraiment réduire au maximum les espaces, ou plutôt au minimum du coup. Donc j'imagine au minimum qu'ils vont au moins les embêter 45 minutes, et je pense qu'à la mi-temps, il y aura 0-0, et que c'est coté à 2-0-5, donc voilà. Je me dis que c'est plutôt bien payé pour un résultat qui me paraît assez possible, en espérant quand même éviter le hold-up danois dès la première mi-temps, parce que de toute façon, je pense que je vais jouer le 0-0 sur 90 ou 120 minutes. Mais voilà, des Danois qui arrivent au moins à leur poser problème pendant une mi-temps, avant peut-être de craquer, on l'espère, pour le football. Mais j'en suis pas tout à fait convaincu encore, quoi.
Le football nous a souvent trahis.
Et puis la Croatie reste une experte jusqu'ici de très belles phases de poule et puis du choc dès le premier adversaire en élimination directe, quoi.
Des beaux perdants en général. Donc ouais. Voilà, Christophe qui propose la Croatie par 2 buts d'écart à 3-10. Et Florent qui dit qu'il y aura, enfin qui dit, qui pense peut-être qu'il y aura 0-0 à la mi-temps à 2-0-5.
Du coup, vous pouvez jouer les deux, si ça se trouve, vous allez passer les deux, vous passerez une très belle après-midi.
Ce qui ferait une belle deuxième mi-temps pour la Croatie, pour tous les supporters croates, du coup.
C'est ça.
On passe à l'autre match de la journée, le match entre l'organisateur, la Russie et l'Espagne, championne en 2010. On retourne chez Christophe pour ce ping-pong qu'on a mis en place désormais et qui ne nous quitte plus.
T'aimes bien cette expression de ping-pong.
Oui, voilà, parce que tu sens que c'est quand même un truc assez dynamique où il y a un échange vraiment à la fois d'émotion et de qualité technique. Je suis très mauvais au ping-pong, donc en plus, c'est pour une fois que je peux en parler sans me ridiculiser, ça me va. Tu as un truc sur l'Espagne et la Russie, et notamment sur un match plutôt vivant selon ton pronostic.
Voilà, un match plutôt vivant. Mon pari, c'est victoire de l'Espagne, mais les deux équipes marquent, c'est coté à 3,30. Et je trouve que c'est une très belle cote, parce que l'Espagne, défensivement, elle a quand même pris 5 buts en 3 matchs. Alors tu me diras, elle n'en a pas pris contre l'Iran, mais l'Iran ne se découvrait pas énormément. Et deuxièmement, elle en a quand même pris un qui était hors jeu, du coup elle ne l'a pas vraiment pris, mais elle l'a pris quand même. C'est-à-dire que tu restes quand même sur une action qui n'était pas très très bien défendue, parce que c'est pas comme si tu avais mis un mec hors jeu de 5 mecs, et que voilà, l'action n'aurait jamais dû avoir lieu. Là, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Et alors, l'Espagne n'a jamais été vraiment en difficulté pour se qualifier. Sa qualification était toujours à peu près assurée, même en étant menée par le Maroc. N'empêche qu'il y a des défaillances individuelles assez énormes derrière. Autant les latéraux, tu sais, qui sont plutôt tournés vers l'offensive, surtout Alba. Donc, tu t'attends d'eux qu'ils jouent assez haut. Et même s'ils ont un ou deux oublis, Logiquement, ça ne doit pas être trop gênant parce qu'ils mobilisent tellement leurs ailiers, les ailiers qu'ils ont en face, ils les obligent tellement à défendre que du coup, généralement, les ailiers n'ont plus la possibilité de véritablement attaquer. Mais c'est sur la partie axiale où ça pose souci, où tu as vraiment, vraiment un gros problème Piqué-Ramos. Alors, aucun des deux ne fait véritablement de match indigne où du début à la fin, tu dis c'est catastrophique, sauf qu'un défenseur central fait vraiment des matchs indignes. Tu vois, on reproche encore à 4 ans après à Varane d'avoir perdu un duel aérien face à Hummels. Tu dis quand tu vois ce que font Piqué et Ramos, c'est entre une et trois erreurs, petites erreurs ou très grosses erreurs par match. Ce qui est quand même assez problématique. Et t'as notamment ce qui me fait dire que la Russie va marquer un but, c'est le fait que Ramos ait perdu un duel aérien face au Maroc, face à Enesiri sur corner, qui met une super tête. Et pour le coup, c'est un duel en détente sèche, détente pure. Enfin, il n'y a pas de bloc ou quoi que ce soit. C'est juste Ramos qui saute moins haut que son vis-à-vis. Et là, tu vas arriver face à Dziuba, qui fait quasiment 2 mètres, qui porte la Russie et qui est cherché en permanence. Alors que ça soit sur coup de pied arrêté, sur descente, c'est souvent le système préférentiel. Un peu, on décale quelqu'un pour centrer. Et puis Golovin met sur le côté, hop, ça centre, et puis Dziuba essaye de mettre de la tête, du pied, du genou, des fesses, peu importe. Et je pense que l'Espagne, elle a montré tellement de difficultés défensives que je vois la Russie marquer. Ceci étant dit, j'ai surtout insisté sur les lacunes espagnoles derrière. Je pense quand même que l'Espagne est bien meilleure que la Russie sur à peu près tous les postes. Et quand tu vois la manière dont la Russie a souffert dès que l'Uruguay est venu, face à un Uruguay qui a joué en 4-4 de losange et qui du coup est allé chercher assez haut en pressant, l'Espagne va tout le temps presser à la perte, va tout le temps mettre du rythme, va pouvoir hausser le ton dans l'intensité logiquement et se mettre à hauteur de la Russie qui jusqu'ici sur les deux premiers matchs avait vraiment bouffé tout le monde sur l'intensité qu'elle mettait face à l'Arabie Saoudite et face à l'Égypte qui ne sont en plus pas forcément des super adversaires. Donc je pense que globalement la qualité espagnole est telle que si tu commences à étouffer la Russie, tu devrais pouvoir marquer 1, 2, 3 buts. Faut quand même pas oublier que la Russie, elle est là, mais avant la compétition, on imaginait qu'elle serait 3 ou 4e de sa poule. C'est déjà très bien d'être là, et marquer un but, c'est largement possible. Après, embêter l'Espagne, même aller en prolongation, ça me paraît quand même très improbable, vu la différence de talent.
Oui, d'ailleurs, Flo, t'es plutôt confiant pour cette rencontre et pour l'Espagne. Il devrait se défaire de la Russie, alors pas forcément en les écrasant, mais sans trop de soucis non plus.
À moins de se faire coréiser comme en 2002, j'ai du mal à imaginer l'Espagne sortir. Alors coréiser, c'est
cette histoire. 2002, c'est tir au but, je crois, il me semble, à l'époque.
Ouais,
c'est
mais il y a
Croatine qui rate un tir au but.
Pour avoir pas mal d'amis d'origine ou espagnols, ils ont beaucoup, énormément au travers de la gorge aussi, l'arbitrage de ce match.
Ah bah,
alors, j'ai plus les détails, mais...
L'arbitrage de la Corée sur cette Coupe du Monde, c'était le match contre l'Italie est légendaire.
C'était très spécial. Donc, à moins d'une situation un peu identique, j'ai du mal à imaginer les Espagnols sortir demain. Et comme le disait Christophe, surtout sur le volet, sur leur volet offensif, je pense que leur capacité à garder la balle très haut, à mettre beaucoup de rythme dans le camp adverse, ça doit faire exploser une charnière russe qui est quand même très loin d'être au niveau pour franchir de tels adversaires. Et notamment même un Diego Costa juste au combat face à Ignashevich ou Koutepov, je crois. Je pense qu'il y a déjà un match-up qui est très problématique pour les Russes. Donc j'imagine l'Espagne passer avec au moins 2 buts d'écart, donc une victoire de l'Espagne avec un handicap de moins 1. C'est coté à 2,45, ça me paraît pas mal. Et moi je pense même que je vais jouer le moins 1 et le moins 2, au cas où ça s'enflamme, en utilisant un petit peu les bénéfices du moins 1 pour tenter le moins 2 qui me rapportera encore plus. Ouais.
C'est la théorie, ça, Florent.
C'est de la théorie, mais quand ça passe, ça fait faire de très jolis bons. C'est passé plusieurs fois au premier tour, notamment on remercie les Belges et les Anglais qui m'ont remis dans le jeu assez bien face au Panama et à la Tunisie. Mais voilà, victoire de l'Espagne à moins 1.
C'est à 2,45.
C'est à 2,45. Et en plus, comme le pari sur Danemark-Croatie, c'est un pari qui est compatible aussi avec celui de Christophe. Du coup.
Eh bien, vous êtes parfaits, messieurs. Ce soir, on ne fera pas d'anecdote de Christophe ou de Florent, puisqu'il est déjà très tard et que ce podcast est très long. Alors, c'est logique parce qu'il y avait l'équipe de France et c'était un match tout de même assez rocambolesque. Mais on va s'arrêter là. On vous retrouve de toute façon demain pour parler d'Espagne-Russie et de Croatie-Danemark. On se projettera aussi sur le quart de finale que ces deux matchs donneront. On vous remercie d'être aussi nombreux, de nous écouter sur SoundCloud, sur iTunes, sur Google Podcast, de nous soutenir sur Twitter, de nous commenter, de nous féliciter, de me dire ce qu'il faut améliorer. N'hésitez pas sur tous les réseaux. Et puis on continue cette Coupe du Monde. Il n'y a plus que 8 épisodes. Ça passe vite, Florent. Ça passe vite, Christophe.
Ça passe vite, Raphaël.
Ça passe vite. Voilà, on se retrouve demain. On vous remercie encore. Ciao.
Salut.
Cordialement.
Vous pensez avoir tout compris ? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.